Et bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue, comment ça va bien? Je voulais m'asseoir pour regarder le stream, mais mon chat m'a piqué ma chaise. Du coup, je suis debout, j'avoue, c'est relou. Bon, bah, du coup, je regarde pas le stream. Ouais. Allez, salut, hein. Non, ou alors, non, tu sais quoi, laisse ton chat regarder le stream et toi, va faire autre chose. Non, je suis désolé, à ta place, je saurais pas quoi faire. C'est terrible. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Merci à MoBDX. Merci Jimiero. Merci Pompidou 2027. Très important. Merci PingDark03. Merci AIGogol. Ou AlGogol, je sais pas. Merci pour vos abonnements. Merci beaucoup. Jidedidedoum. L'Élysée dément envisager une nouvelle dissolution cet automne, comme l'affirme l'agence américaine Bloomberg. Source France Info. Non mais. C'est toujours pareil, les gars. C'est toujours pareil. Évidemment que l'Élysée dément. Évidemment, ils peuvent pas dire l'inverse. Essayez d'imaginer que l'Élysée. Mais n'importe quel Élysée, hein. Je parle même pas de Macron. Macron, on l'aime pas. Macron, explosion. Non, non, non. Je parle de n'importe quel Élysée. Personne peut dire je dissolverai l'automne prochain. Genre, ça n'a aucun sens. Si tu dis ça, si tu laisses entendre ça, tu démarres immédiatement une campagne législative. De fait. Et ça, t'as pas intérêt. Donc, en fait, jusqu'au bout, l'Élysée démentira. C'est normal. C'est exactement, je vous avais déjà expliqué, comme les politiques qui disent, les politiques qui veulent pas répondre à la question quand les journalistes leur demandent est-ce que vous êtes candidat à l'élection présidentielle? Et les politiques qui répondent toujours, la question ne se pose pas, ce n'est pas le moment, etc. Machin, ils ne veulent pas répondre fermement à la question. Mais la raison, elle est normale. Si tu réponds non, je ne suis pas candidat à la présidentielle, eh ben tu t'effaces toi-même de l'actualité. Terminé. Au revoir. Personne ne te réinvitera nulle part. Tant que le mystère subsiste, potentiellement, tu peux compter politiquement. Au sein de ta propre famille politique, au sein de tes camarades, au sein des gens autour de toi, au sein du Parlement, au sein de l'opinion publique, au sein des médias, tu pèses, tu comptes, tu comptes. Donc c'est normal que les politiques attendent le dernier moment pour dire qu'ils ne seront pas candidats. Je verrai le moment venu si j'estime que la France a besoin de moi. Oui, non mais c'est exactement ça. Moi, vous savez, ce qui est important pour moi, c'est d'être utile. Ce qui, au demeurant, est vrai. Enfin, je veux dire, encore une fois, on peut postuler la bonne volonté des politiques qui veulent être utiles. Sous-entendu, avec leur idée politique derrière, ce qui est normal. Mais moi, ce que je veux, c'est être utile. Et pour l'instant, mon utilité, elle est au Parlement, ou alors à autre chose. C'est pas le bon tempo et tout machin. On en parlait encore sur le stream de Luma concernant Villepin qui ne répondait pas à la question d'une candidature. Bah oui! Mais c'est. On en parlait aussi sur mon stream avant Luma, mais enfin bref, c'est pas grave. Après, voilà, chacun son stream, mais moi je l'ai dit avant Luma, voilà, c'est tout. Non, mais après, bon, voilà, c'est pas. Y a pas de concurrence, hein, au service de l'intérêt général. Enfin bref. Et pourquoi le dire très tôt comme Édouard Philippe, court-circuiter la possible primaire macroniste? Non, parce que Édouard Philippe a déclaré qu'il était candidat à la présidentielle très tôt, ce qui peut vouloir dire qu'il est candidat à une hypothétique primaire si jamais il y a une primaire. C'est possible. C'est tout à fait possible. Est-ce que tu lis en ce moment, Jean? Ouais, en ce moment je lis. Hop. En finir avec les présidents d'Olivier Besancenot. Un petit livre, hein, pas très épais. Qu'il a publié aux éditions du Seuil, une critique acerbe du présidentialisme de la Ve République et de ce que ça produit sur le paysage politique, dans les manières de faire de la politique. C'est pas mal, j'aime bien. Je trouve ça chouette. J'aime bien la plume d'Olivier Besancenot. Même si je note un paradoxe quand même, c'est qu'il sort un bouquin qui critique le présidentialisme de la Ve. Pile poil au moment où le présidentialisme est le plus mis à mal, de fait, par l'absence de majorité absolue à l'Assemblée nationale, quoi. Donc, paradoxalement, on est plus en train de vivre un moment parlementaire qu'un moment présidentiel. Comment il va le wingman? Ben, ça va et toi? Voilà. Mais sinon, je lis assez peu, hein. C'est pas trop mon truc. Est-ce que tu penses que Villepin se présentera? Moi, je pense pas. Je pense pas. Je pense qu'il va refaire comme en 2006. Il va nous dire, oh non, j'ai pas les 500 signatures. C'est dommage, j'ai pas vraiment cherché à les avoir. Ouais, j'en sais rien, je sais pas, on verra, mais faut quand même se rendre compte que. Prenez par exemple, prenez un exemple d'une personne qui n'a pas de parti politique, ok? Quelqu'un qui n'a pas de parti politique et qui veut présenter sa candidature à la présidentielle. Et quand je dis présenter sa candidature, c'est une candidature sérieuse, hein. Pas une candidature de témoignage ou je sais pas quoi. Ça demande énormément de temps, de travail, d'énergie, et ça demande quand même d'avoir du monde autour de soi qui va se mobiliser jour et nuit pour construire une campagne. C'est pas juste une personne, une candidature, hein. C'est une équipe derrière, c'est des gens, il y a des locaux, il y a des gens qui bossent dedans, c'est voilà. Emmanuel Macron a préparé sa campagne présidentielle lorsqu'il était ministre de l'économie, par exemple. Il invitait énormément de gens à venir déjeuner avec lui, il rencontrait des gens. Il rencontrait des politiques, il rencontrait des gens des médias, il rencontrait des gens influents, des gens du business aussi. Il discutait avec des députés, il discutait avec des élus locaux, il discutait avec plein de gens. Et il préparait le terrain à sa candidature. Donc mine de rien, une candidature, ça peut pas s'improviser, quoi. C'est quand même. Je verrais bien Villepin être appelé pour le Quai d'Orsay, par contre. Autant par la droite que par la gauche. Par la droite, ça me paraît très très peu probable, compte tenu de la virulence avec laquelle Dominique de Villepin tacle les Républicains aujourd'hui. Dominique de Villepin, il a quand même fait des sorties anti-Retailleau vénères. Vraiment. Il a parlé d'irresponsabilité sur l'Algérie notamment, hein, les relations algériennes. Là, clairement, sur les questions internationales. De Villepin est plus à gauche que le gouvernement Bayrou. Donc, moi, je vois personne aux Républicains aujourd'hui appeler Bayrou. Les macronistes, peut-être. Appeler De Villepin, pardon, excusez-moi. Les macronistes, peut-être, effectivement, si les Républicains se cassent de la coalition. Tenez, bah tiens, on reprend le scénario dont on parlait l'autre jour, vous et moi. Imaginons que il y ait une motion de censure qui soit votée à l'Assemblée. Peut-être qu'Emmanuel Macron va tenter de composer un nouveau gouvernement, mais plutôt que de le faire avec les macronistes et la droite, de faire avec une partie des macronistes et une partie de la gauche. Ça me paraît peu probable, hein, je vais pas vous mentir. Mais admettons que tu te retrouves avec le MoDem, Renaissance, le PS, quelques écolos. T'as pas une majorité du tout, hein. Mais peut-être que là-dedans, tu pourrais avoir un Dominique de Villepin, effectivement. C'est possible. Et là, Macron remet de Villepin Premier ministre et il retente le CPE 20 ans après. Franchement, si Dominique de Villepin refait le CPE, c'est le plus beau cadeau qu'il peut faire à la gauche. Parce qu'on va avoir un mouvement étudiant, les gars. Je crois que vous n'êtes pas prêts. On va avoir des millions de manifestants dans les rues. Hop là, pardon. Des manifestants soutenus par l'opinion publique. Tu voteras Édouard Philippe au second tour contre Marine Le Pen? C'est quoi l'alternative? C'est quoi le CPE? Le CPE, c'est le contrat première embauche. C'était une réforme que Dominique de Villepin, il y a 20 ans, lorsqu'il était Premier ministre, a introduite et qui créait un contrat de travail précaire pour les jeunes. Voilà. Autant te dire que les jeunes ont moyennement goûté la plaisanterie et que ça a donné naissance à un mouvement lycéen et étudiant massif qui a conduit au retrait du projet par le gouvernement quand même, hein. Je me souviens d'ailleurs, c'est blague à part. Donc moi évidemment j'étais lycéen, j'étais dans la rue et tout, je faisais des manifs machin. Et je me souviens que l'été après le CPE, l'été, je suis allé en Angleterre pour une espèce de semaine d'apprentissage de l'anglais. Tu sais, les espèces de centres de vacances là où t'apprends l'anglais. Et bah il y avait des jeunes de partout dans le monde qui venaient apprendre l'anglais. Voilà. C'était à Oxford, je m'en souviens. C'était à Oxford et il y avait des jeunes de partout. Et il y avait des étudiants chinois, des lycéens chinois qui étaient là. Et j'ai discuté avec eux en anglais. Et je me souviens qu'il y avait un chinois qui est venu me voir, qui m'a fait, mais attends, vous les Français là, c'est quoi le délire? Il s'est passé quoi chez vous? J'ai vu des images, il y a eu des manifestations avec la police et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Et du coup, j'ai dû lui expliquer dans mon anglais approximatif de l'époque. Ce qui s'est passé, le gouvernement a proposé un truc, il y avait des étudiants et des lycéens dans la rue qui ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord, et à la fin le gouvernement a retiré son projet. Et je vous jure que c'est vrai, le chinois il m'a regardé, il m'a fait, non j'y crois pas, non j'y crois pas, non non tu mens. Je dis non si si je te jure, il m'a dit non tu mens, tu peux pas avoir genre les jeunes qui manifestent et le gouvernement qui fait marche arrière, genre en fait ça n'existe pas, tu te fous de ma gueule en fait. Vraiment, moi j'étais en mode, frère, je te jure, je sais, ça fait bizarre, mais même nous, hein, ça nous a fait un peu bizarre sur le moment, mais si, si, je te jure, quand t'as des millions de jeunes dans la rue, des fois le gouvernement, il se dit, ouais, venez, on arrête avant qu'il y ait un mort. Pour la Chine, c'est la science-fiction. Et c'est vrai que je me mets à la place d'un lycéen chinois. Ce que je lui ai raconté paraissait fou, en fait. Un lycéen chinois, à aucun moment, il imagine la possibilité, déjà, qu'il y ait de manifestations dans la rue. Déjà, ça, c'est dur à imaginer. Mais qu'en plus, les manifestations soient tellement massives que le gouvernement se dit, ouais, on arrête les conneries, en fait. Bon, voilà. Donc, c'est intéressant. Non, mais c'est intéressant. On a le même âge, mais on vit pas dans le même monde, quoi. Après, en France, on a échappé de justesse à l'armée face à des manifestations étudiantes quand même. Tu parles de mai 68? Non, mais le déploiement de l'armée a pas sérieusement été envisagé, hein. Je crois pas, hein. C'était la préfecture de la Seine qui gérait le bordel à Paris. Non, mais c'est à chaque fois, tu vois, c'est toujours pareil. À chaque fois qu'il y a des émeutes, notamment dans les banlieues, ou qu'il y a des manifestations violentes, etc., machin. T'as toujours des gens, t'as toujours des éditorialistes notamment, qui viennent te dire, ouais, il faudrait envoyer l'armée. Il faudrait envoyer l'armée. Ah. Envoyer l'armée. Et en fait, c'est un espèce de fantasme. C'est un espèce de fantasme du retour à l'ordre par les armes. Mais en fait, faut quand même savoir un truc, c'est que la raison pour laquelle on a retiré à l'armée la gestion des foules, c'est précisément parce que l'armée savait pas faire, en fait. L'armée, c'est des gens qui savent tirer avec des armes à feu, hein. Ils savent se déployer de manière tactique. Ils savent faire usage d'armes à feu, de bombes aussi, de missiles aussi, ça, ils savent faire. Enfin, tu vois, c'est genre envoyer l'armée comme si l'armée était capable de ramener l'ordre. L'armée, elle ramène pas l'ordre. L'armée, elle fait des massacres. Comme dirait Patrick Boucheron, c'est la méthode du maintien de l'ordre colonial, le massacre. Donc non, vraiment, c'est pas... Non, non, on n'envoie pas l'armée. On envoie l'armée s'il y a des armes à feu en face. Tant que c'est des manifestations, des mouvements de rue, etc., on a des corps de civils qui savent très bien gérer, hein. On a les gendarmes mobiles, tu me diras, c'est l'armée, hein, mais spécialisée pour le coup dans le maintien de l'ordre. On a la CRS, on a les CRS. Il y a des renforts de la police nationale et tout, mais... Donc non, non, on n'envoie pas l'armée... Pourquoi les manifs d'avant, comme celle du CPE, aboutissaient alors que celles d'aujourd'hui, plus du tout? Est-ce que c'est lié au pouvoir en place, ou plutôt à une tendance globale, genre les manifs ont un vieux mode de protestation? Bah, c'est un peu lié à tout, c'est-à-dire que ça dépend des relais dans l'opinion publique, ça dépend du soutien dans l'opinion publique, ça dépend de la capacité à transformer politiquement en réalité tangible. Ça dépend ce qu'on appelle reculer aussi pour le gouvernement. Est-ce que le gouvernement a reculé face aux Gilets jaunes? Ils ont quand même accordé beaucoup de choses aux Gilets jaunes, mais ça n'a pas empêché le mouvement de continuer. Après, il s'est lentement étiolé, le mouvement des Gilets jaunes. Donc le gouvernement n'avait plus vraiment très peur. Le mouvement sur la réforme des retraites, pour le coup, il était massif, hein. Il y avait énormément de monde dans la rue. Pour autant, le gouvernement n'a pas cédé sur ces manifs parce qu'ils ont gardé la leçon de... Ils ont gardé la leçon des années Juppé, quoi. En gros, il faut aller jusqu'au bout et au final, une fois que t'as cranté, personne ne reviendra jamais en arrière. Le CPE, c'était aussi une exception. Même nous, on était surpris à l'époque. Et plus habituel de ne pas revenir en arrière. Oui, c'est vrai. Oui, moi, c'est vrai que le CPE, c'était presque une surprise au bout d'un moment. Qu'est-ce que tu veux dire par année Juppé? Il avait forcé une loi impopulaire. Ah ouais, non, Juppé, il y allait fort. Hein. Juppé, un des premiers ministres les plus impopulaires de la planète. Hein. Juppé, réforme des retraites, années 90. Mais grève massive. Hein. Il n'y avait plus un train qui circulait. Il n'y avait plus d'essence. Ah non. Les grèves de 95, c'était raide hein, quand même. Merci pour tes interventions sur France Inter hier, ta voix faisait du bien au débat. Merci, c'est gentil, merci, merci. J'étais sur France Inter hier avec Frédéric Dabi de l'IFOP, vous savez Frédéric Dabi, qu'on voit partout à la télé, qui parle des sondages. Et bien Frédéric Dabi, moi j'avais été en plateau avec lui il y a plusieurs années, à une époque où je squattais régulièrement le plateau d'LCI. On était avec Frédéric Dabi, et on avait sympathisé et tout, puis ça faisait 1000 ans qu'on s'était pas vu, et là on s'est retrouvé hier dans une émission pour parler des jeunes. Ça s'appelle Le téléphone sonne. Et vous pouvez retrouver gratuitement le podcast sur votre appli Radio France ou en ligne hein, directement, vous tapez le téléphone sonne. Vous écoutez l'émission d'hier et c'était chouette. Merci Jésus Berry qui vous met le lien dans le chat. Alors les copains, attendez, non, parce que quand même, il faut qu'on en parle. Dis donc, dis donc, dis donc, dis donc. Qui c'est qui a pris la parole hier dans une tribune publiée dans Libération pour proposer l'organisation d'une primaire à gauche pour les présidentielles? Boum! Lucie Castet, let's go! Lucie Castet, ancienne candidate au poste de première ministre présentée par le NFP suite à de longues négociations à l'été 2024. Lucie Castet qui publie une tribune. Organisons une primaire des gauches la plus large possible. L'ex-candidate du NFP à Matignon invite les chefs des partis de gauche et écologistes à se rassembler le 2 juillet pour discuter d'une candidature commune à la présidentielle. Lucie Castet qui met les pieds dans le plat. On va lire la tribune et on va en parler. Attendez, je finis mon café. Partout en France, en Europe, dans le monde et dans la galaxie, non, je déconne. Partout en France, en Europe et dans le monde, la fascisation est rampante et les idées d'extrême droite gagnent du terrain. Les digues sautent les unes après les autres, tandis que les Françaises et les Français attendent des réponses à leurs attentes légitimes de justice et de protection. En juillet dernier, vous m'avez désigné pour devenir la première ministre issue du nouveau Front populaire. Ce fut à la fois un grand honneur et une immense responsabilité, en premier lieu à l'égard des électrices et des électeurs qui ont voté pour vos partis lors des dernières législatives. C'est aussi en pensant à eux et à l'ensemble des forces militantes qui se sont mobilisées en juin dernier que j'écris ces mots. Vous avez compris que Lucie Castet, dans cette tribune, elle s'adresse aux partis de gauche. À mon tour, je me tourne vers vous pour exercer une forme de droit de suite et porter un message que j'entends partout en France de la part du peuple de gauche. La situation actuelle doit susciter un sursaut unitaire, car ce qui est en jeu désormais dépasse largement les querelles partisanes. Il en va de notre modèle de société, de la préservation des fondements mêmes de notre état de droit et de notre modèle social, de l'avenir de notre pays tout entier. Alors que depuis deux élections présidentielles, les deux mêmes candidats s'affrontent au second tour, Macron et Le Pen, ni l'un ni l'autre ne pourront se présenter en 2027. Dans un tel contexte, nous devons être à la hauteur des enjeux et nous présenter aux prochaines échéances électorales dans une configuration qui permettra réellement de gagner. Gouverner n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour changer le cours de l'histoire et les conditions d'existence des Françaises et des Français. Trois conditions pour la victoire. Alors, c'est quoi les conditions pour la victoire ? Moi, je veux savoir. Première condition, c'est de nous appuyer sur un socle programmatique partagé sur la base des travaux déjà conduits qui présente une ambition claire et assumée de rupture avec la politique actuelle menée notamment en matière de justice sociale, de protection de l'environnement, de préservation des libertés publiques et de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. C'est trop long, Lucie. Lucie, on arrête les phrases de plus de 4 lignes dans les tribunes et dans les textes et les discours. On arrête. C'est beaucoup trop long comme phrase. J'espère que j'en recroiserai pas une seule dans la suite de la tribune. Car seule une offre politique qui contraste clairement avec celle mise en œuvre sera à même d'apporter les réponses adaptées aux défis et aux difficultés auxquels notre pays fait face. La deuxième condition, c'est l'association plus étroite et continue par les partis des actrices et acteurs de la société civile organisée. Ça, c'est intéressant, ça. L'implication du mouvement associatif, des syndicats, etc. Outre leur travail de terrain au quotidien, ces associations, collectifs, syndicats, intellectuels, militants, etc. nourrissent la gauche et les écologistes depuis des décennies. Elle est une condition de la vitalité et de la richesse du projet proposé, de sa connexion avec le terrain et les préoccupations de nos concitoyennes et concitoyens. Elle est aussi la condition d'une mobilisation massive, comme celle observée en juin dernier, qui a permis d'élire 193 députés du NFP. Elle est le complément indispensable de l'engagement des adhérentes et des adhérents des partis politiques qui représentent un faible pourcentage de la population. Oui, c'est vrai. Elle s'est trompée dans sa tribune. Je veux pas critiquer, hein. Mais elle a parlé de l'engagement des adhérents et des adhérents. Pardon, hein, excusez-moi, hein, je relève des petites erreurs en passant complètement à côté du fond, qui pourtant est hyper intéressant. Je suis vraiment un connard. Donc, on travaille avec la société civile. Donc, première condition, on fait un programme commun. Deuxième condition, on bosse avec la société civile. Troisième condition, c'est qu'il doit exister une candidature commune aux partis de gauche et aux écologistes fédérés autour d'une équipe. Il est donc indispensable d'élaborer de manière collective une procédure démocratique et transparente de désignation de la candidate ou du candidat qui nous représentera à l'échéance présidentielle. Une procédure qui n'aura pas pour unique objectif de trancher la question de l'incarnation individuelle, mais aussi de faire émerger un programme et une équipe qui représentent l'ensemble des sensibilités de l'espace politique de la gauche et des écologistes, soutenus par un collectif crédible et soudé. En gros, ce que dit Lucie Castet, c'est que le but, c'est pas tant d'avoir une candidature commune que d'avoir une équipe qui va bosser ensemble après, genre au gouvernement, quoi. C'est la gauche plurielle. En gros, ce qu'elle propose, c'est la gauche plurielle. Sauf que la gauche plurielle n'avait pas d'incarnation unique à l'élection présidentielle, et c'est en partie pour ça qu'elle a perdu. En partie. Donc ça, c'est les conditions de la victoire. Un programme commun, bosser avec la société civile, et une candidature commune. Et donc, il faut une procédure qui n'aura pas pour unique objet de trancher la question de l'incarnation individuelle, mais aussi de faire émerger le programme et une équipe, etc. C'est intéressant ce que laisse entendre Lucie Castet dans cette phrase. C'est que selon elle, la primaire de la gauche, si jamais elle est organisée, ne devrait pas se limiter à un exercice pour déterminer la candidature, la personne qui sera candidate. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer un système de primaire où les gens ne votent pas que pour le candidat. Ils votent aussi pour des points de programme, pour des personnalités. On pourrait imaginer un système de jugement majoritaire, par exemple, dans lequel on constitue une équipe en prenant ceux qui ont la meilleure moyenne. Tu vois, on peut imaginer des trucs comme ça. J'en sais rien, mais c'est ce que j'ai l'impression de comprendre dans son truc. En gros, il ne faut pas limiter la question à la tronche de la personne qui se présente. Il faut que le processus de primaire aille plus loin et permette la composition d'une équipe plurielle de gens divers. Organiser une primaire juste après les municipales de 2026. Alors, dans cette perspective, plusieurs options peuvent être envisagées. Par exemple, il est possible d'organiser, juste après les municipales de 2026, la primaire des gauches la plus large qu'on ait jamais proposée pour permettre au peuple de gauche de donner son opinion éclairée après une campagne respectueuse et d'offrir à la candidature retenue la plus grande légitimité. Je suis désolé, je ne comprends pas. Je ne vois pas pourquoi est-ce que la primaire aurait lieu après les municipales et en quoi ce serait un bonus. Surtout vu l'ambiance qu'il va y avoir pendant les municipales entre les partis de gauche. Hein. Pardon, hein. Je veux pas péter l'ambiance, mais... À voir. Il est également possible que les représentants des partis se réunissent pour une concertation de quelques jours pour décider de la candidature la plus pertinente et des modalités qui permettront sa victoire. Ah ! Donc ça, c'est le modèle LFI. T'as le modèle primaire PS... T'as le modèle LFI. Ou encore, il est envisageable d'organiser une convention citoyenne avec des représentants des partis de la société civile organisée, mais aussi d'électrices et d'électeurs de la gauche tirés au sort. Ça, c'est la méthode citoyenniste. D'autres modalités sont certainement envisageables dès lors qu'elles sont suffisamment crédibles pour nous permettre de gagner et respectueuses des deux autres conditions énoncées ci-dessus. Si ces conditions sont réunies, il me semble que vous pourrez de nouveau compter sur une mobilisation sans faille de la part des associations, collectifs, citoyens. La responsabilité est immense, l'espoir aussi. Pour gagner, nous avons besoin de nous mettre autour de la table et de travailler. Donnons-nous rendez-vous le 2 juillet prochain pour poser la première pierre de la victoire. Alors, attends, 2 juillet prochain, je note dans mon agenda. Hop. 20 juillet... le 2 juillet, il y aura peut-être des QAG, ouais, ça m'arrange pas, mais c'est pas grave. Donc j'écris dans mon agenda, Réu, Lucie, Castet, les bails à gauche. Voilà. Vous l'avez mis dans vos agendas, vous ? Parce qu'elle vous donne rendez-vous, hein. Ok, d'accord. Intéressant. Alors, du coup, je vous pose la question parce que je la trouve intéressante. Est-ce que vous pensez que les partis politiques de gauche qui ont nommé Lucie Castet l'été dernier comme candidate pour Matignon peuvent se permettre de ne pas accepter une invitation à discuter ? Ça me paraît compliqué quand même. Vous imaginez les partis qui font la gueule et qui refusent d'y aller ? Moi, ça me paraît... J'ai dit, ben alors, les gars ? Ils vont la laisser en vue, tu penses ? Je sais pas, c'est possible. C'est qui la désunion ? Non, mais voilà, non, mais c'est ça qui est intéressant, c'est, je suis d'accord avec toi, en fait. C'est-à-dire que Si un parti refuse de se mettre autour de la table, pour juste discuter, là, ça n'engage à rien. Hein. Mais si un parti refuse de se mettre autour de la table, de fait, il est le parti qui accepte de jouer la désunion, en fait, qui ne veut pas discuter avec les autres. Est-ce qu'un parti peut se permettre de faire ça? C'est pas sûr. Cette invitation pourrait être le seul moyen d'avoir une union avec tout le monde, LFI comprise. Si LFI décide de changer de stratégie par rapport à la stratégie qui les a déjà amenés à plus de 20% à deux reprises. Ce qui n'est pas évident à imaginer. Mais peut-être, hein, c'est possible. Parce que imaginons qu'il y a une primaire à gauche qui soit organisée. Est-ce que vous pensez que Jean-Luc Mélenchon peut la gagner? C'est possible. Vu la quantité de gens qui sont allés voter pour lui au premier tour des élections présidentielles. Une quasi-moitié du PS n'a pas envie de cette primaire de la gauche, je pense. Oui, je suis d'accord avec toi. Non, mais au demeurant, attention, il n'y a pas... c'est pas la France insoumise qui boude dans son coin. Il y a aussi des gens au PS qui veulent surtout pas entendre parler d'une primaire commune avec Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire que, en fait, ce qui se passe, c'est que le risque, c'est qu'on se retrouve dans la même situation que la primaire du PS de 2016. C'est-à-dire une primaire qui doit trancher un axe programmatique majeur, rendant impossible pour toute une partie des partenaires de la primaire de suivre le candidat. C'était ça le problème de la primaire du PS en 2016. C'est que tu peux pas demander à une primaire de trancher la ligne du Parti Socialiste après 5 ans de pouvoir. Extrêmement difficile. C'est normal que si un frondeur comme Benoît Hamon remporte la primaire, bah, les gens comme Manuel Valls et François Drugy, ils se cassent. Et inversement, si Manuel Valls avait remporté la primaire des socialistes, évidemment que Benoît Hamon se serait barré. Donc c'est tout le problème de cette primaire, c'est que t'essayes de faire coïncider des contraires. Donc si on imagine, si on fait l'exercice intellectuel de dire vas-y, on fait une primaire dans laquelle il y a Jean-Luc Mélenchon et Raphaël Glucksmann, si c'est Raphaël Glucksmann qui gagne la primaire, évidemment que Jean-Luc Mélenchon va pas le soutenir. Enfin, moi j'y crois pas un quart de seconde, ça n'a aucun sens. Et puis même, ce serait absurde. De la même manière que si c'est Jean-Luc Mélenchon qui gagne, je m'attends pas du tout à ce que Raphaël Glucksmann soutienne Mélenchon. Donc, non. C'est pour ça qu'effectivement, il y a une difficulté particulière à cet exercice. En tout cas, à l'heure qu'il est, Lucie Castem, elle est pieds dans le plat. Et elle décide de parler du tabou qui est celui de la primaire. Lucie Castem, en fait, elle joue son rôle de meuf à l'extérieur des bails des partis politiques, qui a une forme de légitimité importante qui lui a été confiée par le NFP l'été dernier, et qui s'en sert pour dire, bah, puisque j'ai un rôle particulier à gauche, bah, je vais mettre les pieds dans le plat et je vais poser sur la table le sujet que personne n'a envie d'aborder, c'est la question de la primaire. Donc c'est ça le move qu'elle fait aujourd'hui. Est-ce que ça peut marcher? J'en sais foutre rien. Je pense que malheureusement, les municipales vont être un moment difficile, notamment dans les relations entre le PS et les Insoumis. Et que du coup, c'est pas trop le moment de se mettre autour de la table et de papoter, quoi. Mais bon, Lucie Castet, elle met tout le monde au pied du mur, quand même. Hein. Et par ailleurs, ce que je trouve intéressant dans sa tribune, c'est qu'elle imagine plusieurs modèles de primaire. C'est-à-dire que Lucie Castet, elle dit pas « voilà ce que je propose, c'est une primaire, on vote le premier tour, c'est telle date, le deuxième, c'est telle date, les deux meilleurs sont qualifiés au premier tour, machin, au second tour et tout. » Non, non. Lucie Castet, elle dit « on peut organiser une primaire, modèle classique. » On peut aussi imaginer que les représentants des partis se réunissent pour une concertation de quelques jours pour décider ensemble. Ça veut dire, en fait, on fait un conclave. On fait un conclave des responsables de gauche, on les fout dans une pièce, on les laisse pendant 3 jours. Tu sais quoi, on prend un Airbnb. On prend un Airbnb, on y va tranquille, on se fait un week-end prolongé. Et le troisième ou le quatrième jour, bon, bah, après discussion et avec un peu d'alcool, on a décidé de se mettre d'accord pour soutenir la candidature de machin. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas, hein? Et enfin, troisième proposition, elle parle d'organiser une convention citoyenne avec des représentants des partis, de la société civile organisée, mais aussi d'électrices et d'électeurs de gauche tirés au sort. Ça me paraît un peu, weird. Autant réunir une convention citoyenne pour travailler sur un sujet précis et faire des propositions, ça a du sens, je pense. Autant une convention citoyenne pour désigner un candidat à une élection. Ouais, non, je sais pas. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de cette proposition de Lucie Castet d'organiser une primaire à gauche et de mettre tous les partis au pied du mur en leur disant « Il faut discuter, on peut pas faire semblant de pas voir l'élection qui arrive. » Conclave plus primaire. Ouais, bah du coup, ça sert à rien de faire un conclave, mais ouais. Ça s'appelle les élections. D'accord, donc tu veux qu'on... D'accord, donc la gauche divisée, et du coup la primaire, c'est le premier tour, comme on disait en 2002. Ça vaut le coup de tenter, j'aime bien, très bonne proposition. Quelqu'un devait le faire, ça ne sera pas accepté. On verra après le congrès du PS, ça je suis d'accord. J'aime bien, trop tôt, c'est de la merde, pas ouf. J'espère que ça se fera. Un peu trop tôt, peut-être. Peut-être. C'est idéaliste. C'est de la merde comme la dernière fois. Mais laquelle de dernière fois? Parce qu'il y en a eu beaucoup des dernières fois. Idée de merde, d'accord. N'hésitez jamais à argumenter, ça fait toujours plaisir. C'est le seul moyen de gagner. Non, c'est pas le seul. C'est pas nécessaire absolument pour gagner, mais... Joli move de Lucie de tenter. Ok. Quel sera le positionnement de Villepin dans tout ça? Villepin candidat. Je vois mal Mélenchon et Glucksmann se mettre d'accord. Je suis d'accord avec toi, j'y crois pas. J'y crois pas du tout. Ils sont où, Kenny et le CNES? Ils sont déjà qualifiés au second tour, c'est sûr. Si c'est pour réaliser le programme du NFP, je vois mal Glucksmann participer. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais où s'arrête la gauche? Est-ce qu'elle-même le sait? Je n'en suis pas sûr. Vraiment pas. Est-ce qu'il y aura un loser bracket? Je vois mal Jean-Luc se mettre d'accord. Bah, on pourrait être surpris, hein. J'en sais rien, je sais pas. Parce que Jean-Luc Mélenchon, il a toujours le même paradoxe, c'est-à-dire qu'il a réussi à deux reprises à arriver à la porte du second tour. En fait, t'as deux manières de le dire. Soit tu dis, il a quand même réussi à arriver à la porte du second tour, hein. Et puis l'autre manière de dire, c'est, il n'est arrivé qu'à la porte du second tour. Et, bon. Du coup, un peu complexe, quoi. La primaire, ça va juste servir à envoyer le candidat le plus mou pour tout le monde. Bonjour, le programme de rupture dont elle parle. On doit garder un vrai programme de rupture, car c'est pour ça que les gens de gauche votent pour un programme. Avoir un gouvernement qui mêle gauche radicale et gauche PS et autres serait inutile. D'accord. Mais quand tu dis que la primaire servirait à envoyer le candidat le plus mou, c'est-à-dire que... Enfin, ça dépend des primaires, quoi. J'ai pas l'impression que Donald Trump était le plus mou du Parti républicain américain, tu vois. C'est un exemple, mais... J'ai pas l'impression que Benoît Hamon était le plus mou des socialistes. Elle a gagné une primaire. Je sais pas si Ségolène Royal était la plus molle du Parti Socialiste, d'ailleurs, en 2007. Ben, ça dépend ce que les gens votent, hein. Mélenchon comme le PS nous ont déjà surpris. C'est-à-dire, quel rapport avec le... Sarko n'était pas l'UMP le plus mou non plus. Mais Sarko n'a pas été désigné par une primaire. Fillon était bien radical comme candidat à LR. Oui, c'était pas le plus... Enfin, ça dépend des sujets, mais oui. À quel moment le programme du PS et LFI peuvent cohabiter? Si c'est pour avoir un entre-deux, ça va écarter les votants les plus que les réunir, surtout qu'on a besoin de se réapproprier les sujets clivants comme le travail, la taxation des riches. À quel moment le PS, Glucksmann, voire Jadot vont soutenir un programme comme ça? Sinon, ça risque de faire comme aux US avec Harris Trump et Hamon qui était à la gauche du PS, mais il a été jeté sous le bus après une primaire, donc bon. Mais toi, t'as pas du tout suivi l'épisode de UNFP, du coup, et de la NUPES. T'as raté les élections de 2022 et 2024. Précisément, le PS et LFI ont fait un accord. C'est bien que, semble-t-il, ça a l'air d'être possible. Enfin, si ça a été possible deux fois de suite, on peut raisonnablement se dire que ça peut exister. Après, peut-être que la NUPES et le NFP étaient des très mauvais programmes et qu'il fallait pas les soutenir, peut-être. Littéralement, le NFP qui a gagné les législatives. Peut-être pas gagné non plus, faut pas déconner, mais qui s'est très bien défendu. Ça, c'est vrai. Et l'aile gauche du PS qui a effectivement passé son temps à critiquer le NFP. Ben oui, mais ils n'ont pas empêché le NFP de faire un bon score. Puis surtout, c'est pas l'aile gauche, à mon avis, tu confonds l'aile gauche et l'aile droite. Je pense, hein. Un accord à tout prix, ça sert à rien si derrière il n'y a pas de projet politique, comme ça sert à rien. Bah, ça sert à rien, ça sert à rien. Moi, je veux bien. Ça peut éventuellement permettre d'empêcher le fascisme de prendre le pouvoir dans ce pays, ce qui peut être effectivement quelque chose d'accessoire, mais on peut aussi considérer que c'est un peu important. Donc, moi, personnellement, je trouve que les expériences NUPES et NFP étaient des bonnes expériences. Étaient des expériences qui montraient une capacité de parti que l'on jugerait être incapable de se mettre d'accord. Réussir à se mettre d'accord. Donc, rappelez-vous, mais rappelez-vous ce que vous disiez vous-même dans mon chat en 2021-2022, hein. Jamais de la vie, le PS et la France Insoumise se mettront d'accord pour quoi que ce soit, à aucun moment. Bon, bah, ils l'ont fait. Alors, ils l'ont fait dans un contexte précis, pour des élections précises, législatives en l'occurrence, et un peu contraints et forcés par les événements. C'est des accords conjoncturels essentiellement. Ça s'appelle la gauche. Ça s'appelle la gauche depuis 2 siècles. Et oui, il y a des accords qui sont faits conjoncturellement. C'est effectivement la conjoncture change ta manière de lire l'actualité, le monde, etc. La Première Guerre mondiale a bousculé énormément d'idées que se faisaient la gauche, la droite, etc. Ils ont bossé ensemble parce qu'ils étaient obligés, machin. La Seconde Guerre mondiale aussi a quand même pas mal changé les perspectives. La chute du mur de Berlin a changé aussi les choses. Enfin, oui, la conjoncture change les choses. Et c'est vrai pour les accords à gauche, comme les accords à droite, à l'extrême droite, etc., pour tout le monde. Mais c'est toujours conjoncturel. Ruffin, il en est où? Ruffin, semble-t-il, il prépare une candidature. Maintenant, à savoir si c'est une candidature à la primaire ou une candidature à la présidentielle, bah, vu que la primaire n'existe pas encore, c'est un peu compliqué. Mais c'est, j'en reviens... j'en reviens à... au move de Lucie Castel, justement, c'est que Lucie Castel est en train de créer les conditions de la conjoncture. C'est ça l'idée qu'elle se fait, à mon avis. C'est de dire, en fait, tant que personne ne met les pieds dans le plat pour parler de la primaire, personne n'en parle. Plus personne n'en parle, moins ça va se réaliser, et plus ça va permettre à chacun de préparer sa candidature dans son coin, notamment François Ruffin. Donc autant mettre les pieds dans le plat tout de suite, mettre le sujet sur la table, comme ça, ça force François Ruffin à se justifier. Vous voyez l'idée ou pas? Là, si Lucie Castet met sur la table l'idée d'une primaire, ça force tous les journalistes comme moi, je ne suis pas journaliste, mais vous avez l'idée, à poser la question aux gens de gauche. Là, moi, je ne peux pas recevoir quelqu'un de gauche sur mon plateau sans, à un moment donné, lui poser la question. Alors, dis donc, vous avez vu que Lucie Castet, que vous souteniez l'année dernière pour être la chef du gouvernement, je vous rappelle, elle propose une primaire. Qu'en pensez-vous? Du coup, les mecs sont obligés de répondre. Bon, bah voilà, bah c'est ça qu'elle fait Lucie Castet. Elle est en train de forcer chacun à se positionner, à expliquer où est-ce qu'il en est. Elle propose une réunion le 2 juillet, et puis on verra. Roussel a répondu à une question sur la primaire sur France Inter ce matin. Bah voilà, bah tu vois, vous avez vu, ça va vite. Hein. Lucie Castet, elle publie ça dans l'IB hier, je crois. C'est hier qu'elle l'a publié ? Non, c'était aujourd'hui, c'était à 8h44 du mat. 8h44 du matin, immédiatement sur France Inter, première question à Fabien Roussel, boum ! Primaire, pas primaire, quelle est votre position ? Et Roussel, il est obligé de répondre. Hein. Alors, ça peut être une réponse gênée, j'en suis sûr. Le scénario Mélenchon candidat unique, mais avec un accord d'une Assemblée nationale avec moins de députés LFI, ou à l'inverse, un candidat PS unique, mais avec un accord d'une Assemblée nationale majoritairement LFI à la gauche. Est-ce que ça te semble crédible? Non. Non, 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 ni l'un ni l'autre ne me semble crédible. Je pense que LFI n'acceptera pas de n'avoir qu'un bulletin Glucksmann à mettre dans l'urne. En fait, ce que tu dis dans ta question, c'est que tu proposes un ticket. C'est soit président-premier ministre, LFI-PS ou PS-LFI. Mais je pense que les deux sont impensables, en fait. Une gauche plurielle est pensable, mais une espèce d'accord comme ça entre deux partis sur un ticket, ça me paraît absurde. Est-ce qu'LFI, ils veulent une primaire même ? À ce stade, la France Insoumise refuse tout exercice de primaire. Ils ont eu l'occasion de le dire. Jean-Luc Mélenchon lui-même l'a dit à plusieurs reprises. Il a vertement critiqué les exercices de primaire et ils ne veulent pas en entendre parler. Ça, c'est la position jusqu'à aujourd'hui de la France Insoumise. Est-ce qu'elle va changer? Je sais pas. Ce sera pas la première fois qu'LFI change d'avis. Mais sur un sujet aussi important qui parle de l'incarnation à la campagne présidentielle, je mettrai pas énormément d'argent là-dedans. Est-ce qu'il a peur de la voie démocratique? Il a probablement pas la même manière de définir démocratie que toi. Jean-Luc Mélenchon, en 2022, pour ceux d'entre vous qui s'en souviennent, pour se présenter à l'élection présidentielle, la France Insoumise avait organisé une pétition. Et il y avait des centaines de milliers de Français qui avaient signé la pétition. Pétition en faveur de la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Comment elle s'appelait déjà pour ces... Vous vous en souvenez ou pas? « elle est soutenue par quelle base de parti politique, Lucie Castet, pour se présenter? Elle n'est pas dans un parti politique, Lucie Castet. C'est tout son avantage. Nous sommes pour, merci, merci, nous sommes pour. C'était une campagne de communication, hein, une campagne de la France Insoumise qui s'appelait Nous sommes pour, et c'était une pétition pour soutenir la candidature de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle. Et c'est une pétition qui a été signée par des centaines de milliers de personnes. Et donc, c'était sur la base de cette pétition que Jean-Luc Mélenchon disait, voilà, je suis soutenu par une large partie de Français qui veulent ma candidature, donc je me présente. Voilà. Dans cette tribune, elle ne se présente pas directement non plus d'ailleurs. Tu as raison, putain, je l'ai même pas souligné. Je l'ai même pas souligné, mais tu as parfaitement raison. Lucie Castet, dans sa tribune, ne dit pas qu'elle est candidate. Elle dit pas qu'elle est candidate. Elle dit, moi je trouve qu'il faut faire une primaire. Mais elle dit pas, je suis candidate à une primaire qu'il faut que nous organisions ensemble. On pourrait faire une primaire référendaire pour savoir si on fait une primaire. Non, mais blague à part. Attends, excuse-moi, mais blague à part. Je suis en train de réfléchir à ces histoires de pétitions et tout, mais attends. Pourrait faire une pétition pour l'organisation d'une primaire à gauche. Franchement, ça n'engage à rien. C'est-à-dire que les gens qui ont envie qu'il y ait une primaire à gauche pourraient signer une pétition, et s'ils sont des centaines de milliers, à peut-être mettre un peu la pression sur les partis de gauche, mine de rien. Mais ça engage pas, ça engage à rien. C'est-à-dire que c'est pas les signataires de la pétition qui vont. C'est pour ça qu'à mon avis, Lucie Castet, soit elle n'y a pas pensé, soit c'est son prochain move. Eh, qu'est-ce que vous en pensez? Prochain move de Lucie Castet, pétition pour soutenir l'initiative d'une candidature, d'une primaire en vue de la désignation d'un candidat commun à gauche. Primaire populaire pilotée par Europe Écologie Les Verts. Oh là non. Oh là non. Le vote pour les primaires, c'est réservé à des gens ou ouvert à tous. Alors, il existe deux types de primaires. Ah oui, pour celles et ceux d'entre vous qui ne savent pas, il existe deux types de primaires. Il y a les primaires fermées et les primaires ouvertes. Les primaires fermées, ce sont des primaires qui sont réservées aux adhérents des partis politiques qui participent à la primaire. Pour pouvoir voter, il faut prouver qu'on est adhérent du parti ou des partis qui font la primaire ensemble. C'est ce qu'on appelle une primaire fermée, donc elle est fermée aux adhérents. Et ensuite, tu as les primaires ouvertes, qui elles sont ouvertes, comme leur nom l'indique, où toute personne peut participer au choix, à la primaire, sur simple déclaration sur l'honneur que l'on soutient l'initiative, et parfois en échange du versement d'une contribution, quelques euros pour participer aux frais. Les militants LFI ne pourront pas voter à la primaire si c'est fermé, c'est mort. Bah, ça dépend. Enfin, je veux dire, si LFI ne participe pas à la primaire. Ah non, pardon, oui, non, effectivement, oui, la France Insoumise n'a pas d'adhérents. Donc, effectivement, oui. T'as raison, j'y avais pas pensé à ça. C'est pas pratique, il n'y a pas d'adhérents à LFI, en fait. Et c'est particulier, LFI. Donc oui, effectivement, une primaire fermée avec LFI, c'est pas possible. Ou alors, il faut qu'LFI mette en place un système d'adhésion. Dans une primaire ouverte, les gens de droite, ils peuvent voter et fausser le scrutin, non? Non. En fait, c'est-à-dire que la probabilité est tellement faible que ça n'existe pas. C'est très minoritaire. Ah oui, non, c'est ridicule. le célèbre entrisme des militants de droite. Non, mais voilà, ça n'a aucun sens. D'ailleurs, excusez-moi, puisqu'on en parle, les gens de gauche du chat, là, vous avez pris votre carte chez les Républicains pour voter pour la présidentielle? Bah oui, parce que... Ah bah oui. Pour voter entre Wauquiez et Retailleau. Vous avez pris votre carte pour faire de l'entrisme? Voilà. Donc vous avez... Alors tu vas rire. Ouais, bien sûr, ouais. Ouais, bien sûr, ouais. Ouais, ouais. Ouais, je vous connais, ouais. Bien du genre à claquer 25 balles pour adhérer aux Républicains juste pour voter pour une voix entre Wauquiez et Retailleau. Ça coûtait 2 euros la primaire avec Hamon et Valls. La primaire du PS de 2016 coûtait effectivement 2 euros. C'était pas que la primaire du PS d'ailleurs, c'était la primaire du PS et des écolos. Il en pense quoi, Olivier Legrain, le millionnaire qui avait financé la primaire populaire et soutient de Ruffin? Ah bah il est pour la primaire, hein, lui il a pas changé d'avis. Hein. 2 euros c'est pas cher pour troller une primaire. Bah ouais, mais si t'es seul à troller, en fait ton troll il va pas marcher. Hein. C'est toujours pareil. Hein. C'est comme si tu me disais, c'est facile d'aller perturber un meeting de droite. Bah oui, mais enfin si t'es seul à y aller le perturber, tu vas rien perturber du tout. Hein. Ça s'organise comment, en ligne, où ils font pas des bureaux de vote quand même? Si, si, bien sûr que si. Il y a des bureaux de vote. Moi, je me souviens de la primaire de 2011 du Parti Socialiste. Il y avait des files d'attente dans la rue pour voter. Hein. Moi, j'ai attendu, je crois, 20 minutes, 25 minutes dans la file d'attente pour pouvoir voter. Enthousiasme délirant pour Henri Emmanuelli. C'est con. Mais ouais, non, c'était impressionnant. Il y avait des bureaux de vote et tout. Tout ça pour avoir Hollande qui mène un programme libéral, fait monter Macron et l'extrême droite, super. Ah bah les gens ont voté, hein. Ça s'appelle la démocratie. Hein. T'avais qu'à venir voter comme. T'avais qu'à venir voter Martine Aubry comme moi. Hein. Peut-être que le résultat aurait été différent. T'as passé 20 minutes pour troller une primaire de gauche. Oui, je faisais partie des trolls aubristes qui voulaient que Aubry soit la candidate du PS pour les élections, pour l'élection présidentielle. Attends, mais je crois même me souvenir que j'étais allé au QG de Martine Aubry. Alors, c'était pas un QG, c'était un bar à Paris pour la soirée des résultats. Je crois que j'étais avec les aubristes ce soir-là dans un bar du 9e arrondissement à côté de Drouot, pour ceux qui connaissent. Je sais pas, j'ai un doute. L'ambiance devait être bizarre. Non. Non, parce qu'on savait qu'elle gagnerait pas, donc... Putain, c'est des souvenirs, hein, parce que c'était il y a 12 ans, 13 ans. Aubry qui n'a rien opposé au front de gauche à 11%, même aux législatives suivantes, quelle déception. Ouais, je sais. Non, Martine Aubry, c'est bizarre. Nicolas Framont, le débat sur la primaire, c'est vraiment notre jour sans fin à nous. Le fait qu'on nous ressorte tous les 4 ans cette vieille marotte complètement pétée qui ne fait vriller que les bacs plus 7 sociodémocrates en dit très long sur l'absence d'imagination politique dans ce camp. Mais il a raison, moi je pense qu'il a raison. Je pense qu'il a raison. C'est un truc de connard. Et à mon avis, c'est en les méprisant qu'on va réussir à gagner la bataille des idées, la bataille culturelle. Ça marche toujours, hein, de toute façon. Le petit mépris militant, ça a toujours fonctionné. Donc ça devrait pas, ça devrait continuer à fonctionner. Je me souviens que la première présidentielle 2012 était pendant la première édition d'Iron Squid. Tu te souviens de ça? Non, je m'en souviens pas. Je me souviens pas d'Iron Squid à ce moment-là. Martine Aubry, c'est de la famille de Jacques Delors. Bah, c'est sa fille. Attends, c'est bien la fille. Oui, c'est de Delors. Putain, t'es en train de me foutre le doute, j'ai mal au crâne. Oui, c'est la fille de Jacques Delors. Putain, la vache. Comment je peux hésiter là-dessus, quoi? Hamon 2027. Vas-y Benoît Hamon, prends ta revanche, présente-toi, viens, on y va. Mais ça peut... En vrai, ça aurait de la gueule qu'il y ait François Hollande qui se présente à la primaire et qui perde. Genre, pour le coup, en fait, ça clorait le chapitre François Hollande. Parce que le drame de François Hollande, c'est que comme il n'a pas pu se représenter à sa propre succession en 2017, il a un espèce de goût d'inachevé. Donc du coup, il faudrait qu'il se présente à une primaire et que la primaire l'élimine. C'est quoi les chances d'avoir une candidature de gauche au second tour sans primaire? Alors si on prend... les dernières élections présidentielles au cours du 21e siècle, virgule, jamais la gauche en France n'est arrivée au second tour d'une élection présidentielle sans primaire. Autrement dit, à chaque fois qu'elle est arrivée au second tour, il y a eu une primaire avant. Est-ce que ça veut dire que la primaire garantit l'arrivée au second tour? Pas du tout. Parce qu'il y a eu d'autres moments où la gauche avait fait des primaires et elle s'est plantée. Donc, je veux dire, la primaire, c'est pas magique. Ça ne peut pas garantir à soi tout seul une qualification au second tour. On a autant d'exemples de second tour qualifiés grâce à une primaire que de second tour raté en partie à cause d'une primaire. Il n'y a rien de magique dans une primaire. C'est juste une méthodologie de désignation d'un candidat ou d'une candidate. Et ça, c'est pour ça qu'en fait, les militants pro-primaire et les militants anti-primaire, je pense qu'ils tapent complètement à côté. C'est une méthodologie, la primaire. C'est pas magique. Une primaire, ça dépend du momentum, ça dépend du moment dans lequel on est. Un des arguments que je trouve intéressant que mobilise Lucie Castet, c'est quand même de rappeler que en 2027, ni Emmanuel Macron ni Marine Le Pen ne seront candidats. Qu'on le veuille ou non, que ça nous plaise ou non, ça change la donne. Mais en quoi ça change la donne? Bah, j'en sais rien. Je sais pas. On verra ce que les électeurs en disent. Je verrai ce que les électeurs en pensent. Peut-être que ça peut permettre d'ouvrir une fenêtre à une éventuelle qualification au second tour de la gauche. Je veux dire, la seule fois que la gauche a gagné une élection présidentielle au 21e siècle, c'était François Hollande en 2012, et c'était après un pouvoir de droite qui était au pouvoir depuis 10 ans. D'accord? Forcément, il y avait un alignement de planètes qui donnait envie d'avoir du changement. Les gens, ça veut rien dire les gens, mais vous voyez ce que je veux dire. Les gens voulaient du changement, les gens voulaient que ça bouge, les gens voulaient que ça. Il y en avait marre de cette droite au pouvoir depuis 10 ans. Bon, bah la gauche, du coup, il y a eu un alignement de planètes qui a fait que elle a réussi à se qualifier au second tour et ça a donné François Hollande. Là, on arrive à 10 ans de macronisme. On verra 2027, hein, mais on sortira de 10 ans de macronisme. Va y avoir une envie de changement, c'est normal, c'est naturel, ça donne envie. La question, c'est qu'est-ce que les gens vont vouloir comme alternative? C'est pas sûr que ça bénéficie à la gauche. Hein. Pardon, hein, mais c'est pas sûr que ça bénéficie à la gauche. Marine Le Pen semble assez bien placée, pardon, pour représenter une alternative. Elle est à plus de 30% des voix. Alors, je ne vais pas dire Marine Le Pen, parce que maintenant, il semble qu'elle est disqualifiée de la campagne présidentielle, de l'élection présidentielle. Disons le Rassemblement national. Et l'extrême droite en général, c'est 35% des voix aux européennes et aux intentions de vote. Bon, et la gauche dans tout ça? Mais la gauche aussi, elle peut représenter une alternative à Macron. La gauche aussi, elle peut se retrouver à répondre à cet appel et à cette envie d'alternative. Elle en est capable. Elle l'a déjà fait par le passé, elle peut le refaire à nouveau. Comment? Bah, c'est une très bonne question. Moi, j'en sais rien, j'ai pas la réponse. Est-ce qu'une primaire peut être la réponse? Non. Une primaire n'est pas une réponse programmatique. Une primaire est une méthodologie de désignation d'un candidat. Donc ça peut faire partie d'un processus. Est-ce que l'union de la gauche est nécessaire pour gagner une élection présidentielle? Non. Jamais. Jamais la gauche n'a remporté d'élection présidentielle en étant unie. C'est pas vrai. Est-ce que ça veut dire que la désunion garantit la victoire? Non plus. Désolé, ça se saurait, hein. Ça se saurait si la gauche divisée, elle gagnait plus facilement que quand elle est unie. Alors du coup, qu'est-ce qui change? Ah, du coup, qu'est-ce qui change? Bah, ça dépend précisément du contexte. Et du moment où ça se passe, quoi. Mitterrand, c'était uni quand même. Non, Mitterrand, en 81, il y avait une candidature communiste face à lui. Mais entre-temps, il avait réussi à créer la dynamique. Donc voilà. Je veux dire, une élection présidentielle. Déjà, c'est pas une science exacte. Voilà, faut garder ça en tête, c'est pas une science exacte. Ça dépend d'un nombre de facteurs extrêmement importants. Le contexte politique, le contexte culturel pour les gens, ça dépend aussi du traitement médiatique, ça dépend de la campagne, ça dépend de la personnalité des candidats qui donnent envie ou pas envie à des électeurs et des électrices. Chaque candidat a des avantages et des inconvénients. Donc voilà. Et puis ça dépend d'une campagne aussi. Une campagne, ça peut marcher ou pas marcher. Prenez par exemple la France Insoumise. La France Insoumise, ils sont quand même connus pour faire des très bonnes campagnes présidentielles. Jean-Luc Mélenchon, il fait des bonnes campagnes présidentielles. Moi, je l'ai observé, on était en stream ensemble en 2017 et en 2022. À chaque fois, Jean-Luc Mélenchon, il commence pas très haut dans les sondages et tout au fur et à mesure de la campagne, il ne fait que monter. C'est la fameuse tortue sagace de 2022 qui faisait marrer tout le monde. C'était une bonne image, je trouve. C'est qu'effectivement, Jean-Luc Mélenchon, il grappille, il grappille, il grappille, il grappille, gentiment, doucement. C'est jamais spectaculaire, mais il monte, il monte, il monte, il monte petit à petit, parce que la France Insoumise fait des bonnes campagnes. Même Jean-Luc Mélenchon est assez bon dans une campagne présidentielle. Jean-Luc Mélenchon, mais rappelez-vous, je me souviens que vous me faisiez la réflexion dans le chat pendant qu'on regardait les émissions télé pendant la campagne présidentielle en 2022, vous me disiez, mais c'est marrant, il a changé Jean-Luc, il est tout gentil. Mais oui, Jean-Luc Mélenchon, quand il est en campagne présidentielle, il devient un agneau. Vous vous souvenez les interviews sur TF1 où le présentateur lui en mettait plein la tronche, mais vraiment Francis Le Tellier, etc., sur France 3 plutôt, qui lui sortait des questions mais hyper vaches et tout, et Jean-Luc Mélenchon qui jouait le rôle du grand-père sympa. Il disait oh non, mais vous savez, vous me dites ça, mais oh non, non, mais vous savez, moi ce qui compte pour moi et tout. Genre vraiment, Je dis, mais il est où le Jean-Luc qui gueule sur les journalistes, là? Il est où le Jean-Luc qui dit taisez-vous à un journaliste? Bah, juste, il n'est pas là, parce qu'il est en campagne présidentielle. Il est très, très bon. Jean-Luc Mélenchon en campagne présidentielle. Et bah ça change la donne. Ça crée des dynamiques de campagne. Ça marche ou ça marche pas. Exactement pareil que Éric Zemmour. Éric Zemmour, visage connu des Français, visage apprécié par les électeurs de droite et d'extrême droite, qui déclare sa candidature à l'élection présidentielle, et bah qui fait une mauvaise campagne. La campagne n'a pas pris, ça n'a pas marché, il y a une espèce de mayonnaise. Les électeurs, y compris d'extrême droite, ils ont regardé ça à la télé, ils ont fait ouais. Bah Zemmour, il est meilleur chroniqueur télé que candidat à la présidentielle, en fait. Ça donne pas envie. Ça marche pas très bien. Bon, bah voilà, bah il s'est planté, il a fait 7%, ce qui est beaucoup moins que ce à quoi il était donné par les premiers sondages. Donc voilà. Ça reste énorme quand même. Oui, 7% pour un Éric Zemmour, ça reste énorme, mais ce qui pour moi est énorme, c'est que les 7% d'Éric Zemmour n'ont pas empêché Marine Le Pen de se qualifier au second tour. Mais je vous rappelle encore une fois que quand Éric Zemmour se présente à l'élection présidentielle, il est donné à 20% dans les sondages. Attention, je vous rappelle encore une fois, pour pas qu'il y ait de méprise, un sondage est un thermomètre, un sondage ne prédit pas l'avenir, jamais. Personne ne l'a jamais dit, personne n'a jamais défendu l'inverse. Les sondages, quand je dis que les sondages le donnaient à 20%, ça veut dire qu'à ce moment-là, parmi les sympathisants de droite et d'extrême droite, quand on calculait les votes, on se rendait compte que il était en mesure de faire 20%. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu commences ta campagne à 20% et tu la termines à 7%. C'est bien la preuve que la campagne s'est pas bien passée. Il y a un truc à rater, il y a un truc qui s'est pas. Voilà. Après, il faut regarder effectivement toujours à la mesure des autres. Et c'est vrai que Éric Zemmour a fait un meilleur score que les Républicains, le Parti socialiste, le Parti communiste, etc. Donc c'est vrai que pour un outsider et pour une primo-candidature, c'est pas mal. Tout le monde dit que Jean-Luc Mélenchon, c'est pas bien. La preuve, il a pas gagné. MDR, regardez n'importe où ailleurs. Sans Jean-Luc Mélenchon, on n'aurait plus de gauche du tout. Oh, je pense que tu prêtes à Jean-Luc Mélenchon un pouvoir probablement un peu plus important que ce qu'il a. La gauche, c'est pas des hommes et des. Enfin, c'est pas des candidats. C'est il y a quelques millions de personnes de gauche dans ce pays quand même. Est-ce que ça ferait bouger les choses à droite s'il y avait une candidature commune à gauche? Potentiellement, oui. Si, il a raison. Ah, vous pensez sérieusement que sans Jean-Luc Mélenchon, la gauche n'existerait plus? Genre vous, par exemple, vous seriez de droite? Enfin, vous avez le droit, hein, c'est un weird flex, mais vous avez le droit. Non, ouais, je sais pas. Sans nier l'importance qu'a joué Jean-Luc Mélenchon dans la gauche française du début du XXIe siècle, résumer l'existence même de la gauche à Jean-Luc, ça me paraît un peu. Enfin, faut doser, non? La gauche ne serait plus représentée. Enfin, je veux dire encore. Enfin, pardon, mais. Il y en a d'autres à gauche, des gens bien. Non? Vraiment? C'est Jean-Luc Mélenchon ou rien? Enfin, quand même. Je sais pas. Moi, je les trouve pas mauvais, les gens de gauche dans ce pays. Il y en a des biens, quand même. Enfin, il y en a. Jean-Luc en fait partie, mais c'est pas le seul, quand même. C'est Jean-Luc Mélenchon ou le fascisme? Non, quand même pas. Il y a Tondelier, il y a Artaud. Non, non, mais je sais pas, moi, la gauche en France, c'est grand. Il y a quand même du monde. Hein. Encore une fois, il y a plusieurs dizaines de millions de personnes dans ce pays qui se sentent avoir le cœur à gauche. Donc, je sais pas. Mais bon, c'est quand même marrant de se dire que les deux seules fois que la gauche a été au second tour d'une élection présidentielle au XXIe siècle, eh ben c'était Ségolène Royal et François Hollande, ils étaient en couple jusqu'en 2012. Moi, je trouve ça rigolo un peu. Alors, on a essayé avec la meuf, ça a pas marché. On a essayé avec le mec, ça a marché. Ça a un peu déçu quand même derrière. Depuis, je sais pas, faut essayer avec l'enfant peut-être. Peut-être c'est ça la solution. Peut-être on se fait chier depuis tout à l'heure à essayer de réfléchir primaire, pas primaire, je sais pas quoi. Alors que il faut juste aller chercher Thomas Hollande. Hein. Thomas, on s'appelle? Faut essayer Louis Sarkozy, putain. Si on a le fils de Ségolène Royal versus le fils de Nicolas Sarkozy au second tour de la présidentielle, moi j'ai envie de me buter, hein. Je suis désolé, c'est... Pays finito, quoi. Vraiment, mais incapable de... Julie Gayet 2027. Non, je sais pas. En tout cas, voilà, moi, ça m'interpelle toujours de me dire que les deux seuls second tours où il y a eu la gauche, c'était un couple. Tous les autres, c'était raté. Tous les autres, il y avait l'extrême droite à la place de la gauche. Bon, du coup, c'est quoi la suite de l'histoire? Du coup, c'est quoi la suite de l'histoire? Est-ce qu'on continue à n'avoir que des second tours où la gauche est éliminée? Est-ce que l'union de la gauche peut bénéficier à une qualification au second tour? Puis ensuite, il n'y a pas que la qualification au second tour, il y a la victoire aussi, hein. Faut que Chikirou se présente. T'es con. Non, ça aussi, ça va piquer, hein. Qui va gagner au second tour face à Jordan Bardella? Jean-Luc, ouais, Jean-Luc. Est-ce que Jean-Luc va enfin réussir à se qualifier au second tour de l'élection présidentielle? Si EELV et le PCF avaient fait preuve de responsabilité, Jean-Luc Mélenchon aurait été au second tour en 2022, faut jamais oublier. Ça ne tenait qu'à ça, pas une primaire ou une non-primaire. Ah oui, alors tu as raison. Il suffit que les partis politiques s'effacent derrière Jean-Luc pour que... Ouais, non, ouais. C'est une manière de voir les choses. Mais tu remarqueras que quand François Hollande a gagné en 2012, il y avait Jean-Luc qui était candidat. Jean-Luc n'a pas fait obstacle à la victoire de François Hollande. Donc... Pourquoi François Hollande ferait obstacle à la victoire de Jean-Luc? Marine Le Pen s'est qualifiée au second tour, malgré la candidature d'Éric Zemmour. Ça l'a pas gêné. Il aurait dû s'effacer face à Hollande. Mais je suis pas d'accord. Heureusement que Jean-Luc était candidat en 2012 face à François Hollande. Je vois pas pourquoi il serait effacé. Mais bon, non, tout ce que je dis, c'est que j'ai toujours trouvé bizarre l'argument de dire s'il y avait moins de candidats à l'élection, j'aurais pu la gagner. C'est donc la faute des autres candidats à l'élection si j'ai perdu. Ça me paraît spécieux. Je sais pas. Je trouve ça bizarre. Une primaire, ça favorise les mous, c'est la pire idée. Bah, ça favorise les mous, sauf quand ça favorise pas les mous. Ce qui fait que du coup, quand il y a des contre-exemples, c'est un peu gênant. Pourquoi JLM accuse Roussel de lui avoir piqué des voix et pas le NPA ou Artaud? Non, alors déjà, Jean-Luc Mélenchon n'accuse personne de quoi que ce soit. Hein. Jean-Luc Mélenchon, à ma connaissance, n'a jamais dit publiquement que c'était à cause de Fabien Roussel s'il n'a pas été qualifié au second tour. C'est des militants de la France Insoumise qui ont dit des trucs comme ça. Mais Jean-Luc, lui, il ne le ferait pas parce qu'il connaît, enfin, il est suffisamment intelligent pour savoir que le contre-argument lui arriverait rapidement. Donc non, 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 Jean-Luc Mélenchon n'a jamais dit ça. Hein. C'est pas. Non, non, non. C'est d'autres qui l'ont dit pour lui, mais c'est. Et encore, quand je dis pour lui, c'est pas lui qui a donné la consigne. Mais effectivement, au demeurant, par contre, je rejoins ta question, c'est pourquoi est-ce qu'on accuse les autres? Rappelez-vous 2002. Rappelez-vous 2002. 2002, Jean-Marie Le Pen est qualifié au second tour de l'élection présidentielle. Stupeur absolue dans le paysage politique français. Tout le monde est sur le cul, et tout le monde se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce qu'on a merdé, etc. Il y a une partie de la gauche va commencer à s'interroger en se disant comment ça se fait que comment il s'appelle Lionel Jospin n'a pas été qualifié au second tour. Quelle est la cause de cet accident industriel? Et tout de suite, on va chercher des responsabilités. On va dire c'est la faute à qui? Et pour une raison que j'ignore, vous n'avez peut-être pas connu cette époque-là, mais je vais vous la raconter. Pour une raison que j'ignore, tout le monde s'est tourné vers Taubira. Christiane Taubira, candidate à l'élection présidentielle, candidate pour le Parti radical de gauche, en l'occurrence le PRG, petite candidature, et tout le monde va tomber à bras raccourcis sur Taubira en disant si Taubira n'avait pas maintenu sa candidature, Jospin serait président de la République. Et tout le monde oublie Chevènement. Personne ne s'en prend à Chevènement. Comme si Chevènement était un homme respectable. Du haut de ses anciens ministères, c'était un homme qui était adoré à gauche, Chevènement, pour son refus de participer au gouvernement pendant la guerre du Golfe, etc. C'était un homme adoré, Jean-Pierre Chevènement, vous n'avez peut-être pas connu, hein. Chevènement, il y a une époque, c'était une superstar. Mais personne ne va reprocher à Chevènement sa candidature. Genre, vraiment, t'es en mode, d'accord. Il y avait aussi José Bové. José Bové, l'écolo avec ses moustaches, là. Bah dis donc. Pareil, personne lui reproche. Genre, les écolos, c'est normal. Et Taubira va s'en prendre plein la gueule pendant des années, voire même des décennies, où on va continuer à lui reprocher régulièrement de dire pourquoi vous êtes présenté en 2002. Est-ce que c'est pas un peu de votre faute finalement, Madame Taubira? Je trouve ça ouf. Ça me. On a décidé collectivement de tabasser la candidate du PRG. C'était ma mère, l'écolo. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Noël, ma mère. J'ai dit quoi, l'écolo? Pardon, excusez-moi. Ah, j'ai dit Beauvais. Non, non, c'était Noël, ma mère. Non, pardon. C'était Noël, ma mère, le candidat en 2002. Excusez-moi, c'était pas José Beauvais. Beauvais, c'est après, c'est celle de 2007, ouais. C'est l'élection suivante. Pardon, pardon. C'est la moustache qui trompe. Ouais, c'est pas simple. C'était Noël, ma mère, le candidat écolo en 2002. Donc voilà, on aurait pu rajouter, parce que quitte à y aller, on aurait pu rajouter Olivier Besancenot et Arlette Laguiller. Je dirais à tous les deux, c'est 10% quand même. Après, c'est difficile de reprocher à Besancenot et Laguiller la non-qualification de Jospin au second tour, compte tenu du fait qu'ils étaient un vote d'opposition à la gauche du gouvernement. Faut être réglo, quoi. Faut que ça ait du sens quand même. Merci Céliage, merci Akecheta, Slobby, Thomas, Saphir44, l'amiral Bastos, The Duft, Mister Pepito, Inkagaya, Azurik, Wingly, Jizuberi évidemment, Algogol. Merci à toutes et à tous pour vos subs et vos resubs. Merci les copains. Tiens, est-ce que ça marche toujours d'ailleurs? Non, je ferai ça une autre fois. Je vais aux toilettes et on continue à discuter de la primaire à gauche. Et j'ai un autre article à lire si vous voulez sur le congrès du PS. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, autre sujet que je vous propose de lire, apparemment, Olivier Faure est en train de se renforcer au Parti Socialiste. Puisque tout le monde se pose la question de savoir si Olivier Faure va perdre le congrès du parti. Mais apparemment, d'après les journalistes de chez Libération, qui sont très bien informés sur le sujet en l'occurrence. Olivier Faure a l'air de bien s'en sortir. Olivier Faure se renforce, l'union vacille chez ses opposants. La trésorière du parti, Fatima Yadani, a rallié l'actuel premier secrétaire et a lâché Philippe Brun. De son côté, Boris Vallot pourrait vouloir y aller solo. Ah, Boris Vallot, qui pourrait aller jusqu'au bout de son projet de refondation du PS. J'y crois pas trop, mais à voir. Les socialistes ne déçoivent jamais en période de pré-congrès. Le nouveau mélo du mardi 22 avril le prouve. Les soutiens d'Olivier Faure doivent se réveiller ce mercredi avec le sourire jusqu'aux oreilles. Car après avoir enregistré plusieurs ralliements la semaine dernière, dont celui du président du département de Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel, et la maire de Rennes, Nathalie Appéré, et celle de Saint-Denis de la Réunion, Erika Barreit, une nouvelle personnalité a décidé de les rejoindre, l'actuelle trésorière du parti, Fatima Yadani. Putain la vache, c'est vrai qu'Olivier Faure, il engrange les soutiens. Une cadre méconnue du grand public, et guère plus célèbre du côté du petit, mais tout de même une prise de guerre dans cette semaine décisive. On rappelle, pour les moins attentifs, les roses qui veulent devenir premier secrétaire doivent déposer leur texte d'orientation samedi à la mi-journée. D'accord, c'est ce samedi. Ok. Si les fauristes étaient si contents de voir Yadani officialiser son ralliement, c'est qu'elle était jusqu'ici engagée dans ce congrès dans une autre écurie, celle de Philippe Brun. La docteur en virologie était même une des têtes de gondole de la contribution générale, le nouveau socialisme. C'est elle qui amène tous les soutiens, soufflait un maire PS la semaine dernière à son sujet. Seulement, Yadani n'a pas apprécié le rapprochement de Brun avec les autres courants anti-Faure et la publication d'un communiqué commun annonçant une ébauche de fusion le 11 avril dernier. C'est-à-dire qu'en fait, les anti-Olivier Faure sont en train de chercher la méthode pour bloquer Olivier Faure et pour s'unir les uns avec les autres contre lui, mais visiblement, ça plaît pas à tout le monde. Bon, en tout cas, je trouve qu'on en fait des caisses pour le ralliement juste de la trésorière du parti qui a pas l'air d'être méga célèbre, hein, mais bon, je sais pas, peut-être. Peut-être qu'elle pèse très lourd en interne, hein, je m'en rends pas compte. Dans un texte publié hier, Yadani explique que son soutien à Faure n'est pas un simple ralliement, mais une volonté affirmée tant pour le projet que pour la stratégie du PS. Elle explique avoir été entendue sur un de ses chevaux de bataille, le féminisme, qui doit devenir une priorité réelle dans le parti et dans le pays. Mais aussi sur la nécessité de rallier la réflexion doctrinale aux expériences concrètes des élus de terrain. Surtout, elle explique que le choix de converger avec Faure est aussi celui de la quasi-majorité du collectif qu'elle représentait jusqu'alors avec Brun, Jérôme Guedj et Laurence Rossignol. Elle ne serait en fait que trois, minimise le nouveau socialisme dans un autre communiqué. Donc apparemment, en fait, dans l'écurie de Philippe Brun, il y a des grosses bisbilles. Il y en a qui disent qu'ils sont majoritairement favorables à un ralliement à Olivier Faure. D'autres qui disent pas du tout, il y en a que très peu qui veulent. Donc ouais. Dans un court texte publié mardi en début d'après-midi, les représentants de l'équipe de Philippe Brun ne cachaient pas leur agacement. Alors qu'elles avaient quitté le courant de Faure en raison de désaccords majeurs sur les pratiques de la direction sortante, ce choix nous a surpris, écrivent-ils. Ils expliquent aussi ne pas avoir été mis au courant de ce mouvement. C'est faux. J'ai prévenu Brun la semaine dernière et il m'a demandé d'attendre jusqu'à aujourd'hui, mardi, jour de négociation pour le premier signataire de la fusion du texte entre courant anti-Faure. A rétorqué Yadeni sur X. Vous voyez qu'on n'est jamais déçu. Putain, le PS vit bien, hein, comme d'hab. Et ça ne va pas mieux chez les autres. Mardi soir, l'opinion faisait état d'un message interne envoyé par Boris Vallot, où le député landais semblait tourner le dos à une fusion des textes d'orientation opposés à Faure. J'ai mené jusqu'à ce jour des discussions avec toutes les contributions générales de ce congrès afin de mettre sur la table les convergences possibles entre nous, écrit-il. À ce titre, je regrette de ne pas avoir reçu de votre part les réponses aux questions que je vous ai adressées et qui paraissent me permettre d'acter l'absence de désaccords stratégiques majeurs pour la suite. Tel Anne, le boss des députés PS, paraît donc vouloir y aller solo. Ah, c'est ça, Anne solo. Il assure néanmoins vouloir continuer des discussions et chercher un accord jusqu'au bout. Il va continuer jusqu'au bout à parler avec tous et tendre la main à tous avec des questions et des sujets précis pour ne pas qu'on refasse Marseille Empire. Ouais, bah ça. Marseille, c'est le nom du congrès qui a donné la scission, enfin pas la scission, mais la division en deux du PS entre Olivier Faure et Nicolas Maillard-Rossignol. Faire pire que le 80e congrès serait de toute façon très dur, mais prenons garde, impossible n'est pas socialiste. Bon. La morale de l'histoire, c'est quoi? C'est qu'on se fait chier au Parti Socialiste. Non, je déconne. On se fait pas chier au Parti Socialiste, mais c'est juste comme d'habitude, en période de pré-congrès, il y a des mouvements qui sont faits. Vous avez bien compris qu'il y a trois blocs. Il y a quatre blocs, en fait, qui sont en train de s'organiser. Il y a le bloc qui soutient Olivier Faure et qui a l'air d'être assez majoritaire, semble-t-il, en tout cas en majorité relative parmi les militants et parmi un certain nombre de cadres du parti. En témoigne le ralliement d'un certain nombre de responsables, d'élus locaux importants du parti. Et en face, on a le club des anti-Olivier Faure autour de Nicolas Maillard-Rossignol, Carole Delga, etc., qui essaye d'engranger des soutiens. Il y a Philippe Brun qui a l'air de vouloir se rallier à cette branche-là. Et enfin, quatrième force, il y a Boris Vallot. Boris Vallot, avec son projet sur la refondation du Parti Socialiste, qui, lui, a l'air de vouloir y aller tout seul. Il ne veut pas se rallier à qui que ce soit. Donc il va rester, semble-t-il, une troisième voie. Bon. S'il y avait une scission au PS avec les anti-Faure qui rejoindraient la Macronie comme avec les LR. Non, ça je pense pas. Pas à ce stade, de toutes les manières, pas à ce stade. Et puis de toute façon, ils pèsent pas assez lourd, hein, les anti-Faure, même à l'Assemblée nationale. Hein. Donc... C'est qui le mieux pour l'union de la gauche? C'est Olivier Faure. Enfin, je veux dire clairement, l'un des points de clivage au Parti Socialiste à l'occasion de ce congrès, c'est la question sensible des alliances à gauche. T'as ceux comme Olivier Faure qui sont prêts à faire des alliances avec les Insoumis. Il l'a déjà fait à deux reprises. La NUPES et le NFP, et il y a ceux qui ne veulent plus que le PS fasse des accords avec la France Insoumise. Et donc, ils veulent dégager Olivier Faure. Olivier Faure, après, il a fait pas mal de conneries ces dernières années. Comme quoi? François Hollande pour l'Union de la gauche. Bah, je pense pas. Hein. Pourquoi il dissout pas le PS pour faire autre chose qui a plus de sens dans le nom? Bah, propose-leur. Localement, je constate que le PS est bien plus compatible avec LREM qu'avec LFI. Ça dépend des localités, hein. Alors ça, franchement. C'est quand la scission du PS? Bah, il n'y en aura pas. Parce que s'il n'y en a pas eu au moment du congrès de Marseille, je vois pas pourquoi il y en aurait une aujourd'hui, hein, de scission du PS. Fabien Roussel disait en octobre 2024 ne pas faire alliance avec Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais ça dépend, alliance pourquoi? C'est toujours pareil en fait. De quoi il parle Fabien Roussel? Pour la présidentielle, on le sait qu'il y a une ligne autonomiste du PCF. Mais pour les législatives, je suis pas sûr que le PCF puisse pouvoir se passer de l'alliance. Faure, il a eu ses 100 circos, il a chié dans la colle. Comment ça, il a chié dans la colle? Frère. Enfin, pardon, je veux bien, on peut ne pas être d'accord, mais Olivier Faure a multiplié par deux le nombre de députés socialistes. Est-ce que tu es capable de me citer le nom d'un seul chef de parti dans ce pays qui a réussi à multiplier par deux son nombre de députés? Bah, je veux bien, hein. Je veux bien qu'on dise il a chié dans la colle, mais le mec. Enfin bref. Marine Le Pen, effectivement, vous avez raison. Marine Le Pen, elle n'a même pas multiplié par deux parce qu'elle est partie. Elle est partie de zéro. Hein. Elle est partie de zéro et elle a fait combien en 2022? Résultat législatif 2022. Elle a fait 89 sièges. Elle est passée de 0 à 89. Ce qui effectivement est une performance très spectaculaire. Hein. Parce qu'en 2017, elle en avait 8 en 2017. Oh, putain, je croyais qu'elle en avait 0 parce qu'ils s'étaient pas barrés les 8. LFI, ils étaient 27. Non, ils étaient 17. LFI, ils étaient 17. Tchoum tchoum. J'arrive pas à voir la dispersion de la NUPES en fait. Je suis sur le site du Monde, j'essaie de chercher. Est-ce que tu penses que LFI voudrait encore d'une alliance après deux trahisons NUPES-NFP? En fait, c'est pas une question d'envie. Il faut comprendre que parfois la politique, ça ne se résout pas à des questions de désir. Parfois, tu as besoin de faire des alliances. La NUPES et le NFP ne sont pas seulement nés d'une envie qui existait vraiment, notamment parmi les électeurs, d'une union à gauche. Elle naissait aussi de la nécessité de faire alliance pour parvenir à avoir le maximum de députés. La France, si tu prends la perspective du Parti socialiste, le Parti socialiste, ils ont 30 sièges à l'Assemblée nationale. Ok? Les socialistes, ils ont 30 sièges. Et aux élections présidentielles, leur candidate Anne Hidalgo fait 2%. Le risque pour le Parti socialiste, c'est de disparaître de l'Assemblée. On en est là. De l'autre côté, tu as la France insoumise, qui a 17 députés, qui a 17 députés avec un candidat au premier tour qui fait 22%. Le problème, c'est que comment tu fais pour te retrouver avec aussi peu de députés alors que tu fais un si beau score à la présidentielle? Comment ça se fait qu'en 2017, Jean-Luc Mélenchon a fait 20% au premier tour de l'élection présidentielle et qu'un mois plus tard, il n'a que 17 députés? Comment ça s'explique? Ben ça s'explique tout simplement par le fait que dans les circonscriptions, il y avait des candidats socialistes qui se présentaient. C'est pas bizarre, c'est normal. Quand tu te gênes les uns les autres dans un scrutin majoritaire par circonscription, ah bah c'est dommage, hein, tu te qualifies pas au second tour. Ou alors si tu te qualifies au second tour, c'est en triangulaire et c'est pas toi qui gagne, c'est les macronistes. Du coup, ce qui s'est passé en 2010, en 2022, c'est qu'il y a eu une rencontre d'intérêts entre la France insoumise et le Parti socialiste. La France insoumise en avait marre d'avoir peu de députés au regard de son score à la présidentielle. Et le Parti socialiste risquait de mourir et voulait continuer à exister au Parlement. Du coup, ils se sont réunis tous les deux dans une salle, ils ont dit, bon, faudrait peut-être qu'on discute. Il faudrait peut-être qu'on se mette d'accord. Parce que là, ce qui se joue, c'est l'effacement de la gauche du Parlement, etc. LFI les a sauvés. Non, LFI ne les a pas sauvés. Alors ça c'est l'erreur de lecture historique de la NUPES et du NFP, où les militants passent leur temps à se taper les uns sur les autres en disant heureusement qu'on a existé, sinon vous seriez morts, d'un côté comme de l'autre. Et c'est exactement ce que disent Carole Delga, etc. Il faut qu'on arrête de faire des alliances avec les insoumis, parce que c'est grâce à nous qu'ils ont beaucoup de députés. Le jour où on arrête de faire des alliances avec les insoumis, la France insoumise, elle redescend à très peu de députés et elle disparaît du paysage politique. Ça, c'est l'argument de Carole Delga, machin et tout. Les deux sont faux. La rencontre des intérêts de la France insoumise et du PS, c'est une rencontre d'intérêts précisément partagés. Ils se sont sauvés mutuellement. Ils se sont aidés l'un l'autre. C'est ça un accord. C'est insupportable ce dénigrement des deux côtés. Oui, mais ça, c'est un grand jeu. C'est un grand jeu militant permanent de dénigrer le camp d'en face en disant vous n'existez pas, vous êtes ridicule, etc. Si j'étais pas là, la gauche n'existerait pas. C'est des trucs que t'entends systématiquement dans les trucs militants et qui ne font plaisir qu'aux militants. Mais la réalité, quand tu regardes la naissance d'un accord de coalition comme la NUPES, c'est que c'est un accord d'intérêt bien compris. Et la morale de l'histoire, c'est qu'en faisant ça, en faisant un accord, eh ben, ils ont créé la NUPES qui a donné 142 sièges. C'est quand même pas dégueulasse, 142 sièges. Pour des gens qui, jusqu'alors, en avaient 40. C'est bien de faire 100 sièges de plus ensemble. Plutôt que très peu, quoi. Hop. Et rebelote. Aux élections, rebelote aux élections législatives de 2024. J'essaie de trouver le NFP. 192 sièges. 192 sièges. Ensemble. Main dans la main. Donc, la question de la survivabilité d'un accord de coalition ne se résume pas seulement à une question d'envie. Ça en fait partie. Mais c'est pas ça qui résume la question. Parfois, c'est simplement aussi des partis qui comprennent où est leur intérêt et qui se disent, il vaut mieux qu'on y aille ensemble plutôt qu'on y aille séparés. Tout ce que je viens de vous dire n'est valable que pour les législatives. Évidemment, la présidentielle, c'est pas pareil. C'est autre chose. C'est une incarnation, etc., machin. Et c'est encore autre chose au municipal, figurez-vous. Ah bah ouais. Vous verrez au municipal qu'en fonction des villes, il y aura des accords qui ne seront pas les mêmes. Parce que les contextes locaux ne sont pas les mêmes. Est-ce qu'on a intérêt à être puissant au conseil municipal ensemble, ou est-ce qu'on a intérêt à y aller séparément parce que je suis sûr de gagner contre toi? Et aux européennes, c'est encore différent. Et aux européennes, c'est encore différent. Les européennes, c'est encore différent. Vu que c'est un scrutin proportionnel à un seul tour, il n'y a pas forcément besoin de faire alliance. C'est pas déterminant. Puisqu'il n'y a pas de second tour. Du coup, il n'y a pas besoin de se qualifier au second tour, vous comprenez? C'est pas tout à fait pareil. Là, la question qu'on se pose sur la présidentielle, c'est une question de qualification au second tour. Hein. C'est uniquement ça. Hein. Ensuite, il faut le gagner le deuxième tour, mais ça, c'est autre chose. Les partis sont une plaie pour la démocratie. Bah, moi, je ne pense pas. Je ne pense pas que les partis politiques soient une plaie pour la démocratie. Je pense que les partis politiques sont incontournables dans une démocratie. Et que c'est bien la liberté des citoyens que de s'organiser s'ils le souhaitent pour présenter des candidats ensemble. Par contre, cette croyance en l'homme ou la femme providentielle, c'est problématique. Ah bah ça, je suis bien d'accord avec toi. Hein. Ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Je suis en train de lire le dernier livre d'Olivier Besancenot, En finir avec les présidents. Vous pouvez l'acheter, hein, il coûte 4,90€. Et il parle justement de ça. De à quel point ça rend zinzin la présidentielle. Je suis pas loin d'être d'accord avec lui. Hop là. Cette lubie des messies, ouais. Donc, faut vraiment garder ces éléments en tête. Et c'est exactement pareil quand je vous parle des élections primaires, des primaires, pardon, avant les élections. C'est difficile d'avoir un jugement définitif sur les primaires, comme si toutes les primaires se valaient les unes les autres. La primaire, c'est pas bon par nature et c'est pas mauvais non plus par nature. Il y a des contextes, il y a des circonstances, il y a des cohérences qui justifient qu'un exercice de primaire ait lieu, et ça peut permettre de donner un boost, de renforcer, de légitimer une candidature, éventuellement à une élection présidentielle. Il y a d'autres circonstances dans lesquelles une primaire ne va pas changer grand-chose, parce que de toutes les manières, c'est déjà mal barré, et tu ne vas pas te permettre d'élargir ton périmètre. Je vais vous donner un exemple d'une élection primaire que moi, j'ai trouvé plutôt bien. La primaire, j'ai jugé que l'exercice était réussi, mais ça n'a servi à rien. C'était la primaire des écologistes. En 2017, celle qui a été remportée par Yannick Jadot. Rousseau-Jadot au second tour, ouais. Rousseau-Jadot au second tour. C'était 2022, c'est bien ça. Oui, c'est Rousseau-Jadot, c'était 2022. En fait, c'était une primaire que je trouvais intelligemment organisée parce que les écolos ont réussi à proposer à l'occasion de cette élection primaire des voix quand même assez différentes pour l'élection présidentielle. La voix d'Yannick Jadot, qui était une voix d'élargissement permanent de l'électorat écolo et d'aller chercher des électeurs pas déjà écolos, etc., c'était une proposition intéressante. La voix de la radicalité qui était proposée par Sandrine Rousseau, qui était assez intéressante. Il y avait Governatori aussi qui proposait une écologie de droite. Et il y avait... Je suis fatigué, je suis désolé. Delphine Bateau. Merci les copains. Merci, heureusement que vous êtes là. Delphine Bateau, Éric Piolle, ouais. Éric Piolle qui proposait une voie clairement orientée vers la gauche, qu'on peut juger proche de la France insoumise, même si ça veut pas rien, ça veut pas dire grand-chose dit comme ça, mais vous avez l'idée. Et on avait Delphine Bateau qui proposait une incarnation autour de la compétence avec sa légitimité d'ancienne ministre. Moi, je trouvais que la campagne, enfin, je trouvais que la primaire des écolos en 2022, elle proposait comme ça, mine de rien, une belle diversité d'offres. C'était pas que des clones les uns des autres. Il y avait quand même un choix à faire avec le bulletin pour les adhérents, pour les sympathisants des écolos. Ça, c'était le premier truc. Le deuxième truc, j'ai regardé les débats, j'ai écouté les débats des écolos, j'ai tendu l'oreille et tout. Et je les ai trouvés très respectueux. Je trouvais que c'était une primaire qui était honnête. Je trouvais que la manière qu'avaient les candidats de se comporter, les uns vis-à-vis des autres, était adulte. Et ça faisait plaisir d'avoir des débats de haute volée, je trouvais, moi, entre les candidats à cette primaire. Donc, ils faisaient des propositions concrètes, ils rentraient vraiment dans le détail et tout. C'était loin d'être creux, c'était plutôt pas mal comme débat. Et le problème, c'est qu'à la fin, à la loyale, ouais, c'est ça. Le problème, c'est qu'à la fin, ils ont perdu. Ils n'ont pas perdu, ils ont désigné Yannick Jadot. Yannick Jadot n'a pas réussi à élargir le socle des électeurs écolos. Voilà. Donc malheureusement, moi je trouvais que c'est une primaire réussie, mais qui n'a pas du tout permis l'élargissement de la base écologiste. Dommage pour eux. Dommage pour eux. Mais c'est cool d'avoir essayé. Ça a au moins ce mérite-là. En même temps, l'offre SOSDEM, il y a 25 candidats, tous pareils. Aucun ne se définit plus que les autres. Je pense que vous devriez continuer à être méprisant comme ça. Mais plus fort, allez-y plus fort. Franchement, vous verrez, ça va donner des résultats. À force. Primaire réussie qui a échoué. Ouais, en fait, elle était paradoxale, cette primaire. Franchement, elle était paradoxale, cette primaire. C'est quand même dommage de réussir à ce point-là l'exercice, mais de pas en tirer des fruits. Et on en revient précisément à ce que je vous disais sur... Une primaire ne garantit absolument pas la victoire. Jamais. C'est vraiment... C'est vraiment une rencontre de circonstances. Il y a des moments où l'écologie politique, elle peut gagner. Il y a des moments où, pour un milliard de raisons, d'alignement de planètes et de sujets, bon, bah, c'est moins la priorité. Et c'est paradoxal, sans doute. Sans doute. C'est pas parce que le match est beau que c'est le meilleur qui gagne. Elle est bien, cette expression. Moi, j'aime bien. L'unité des perdants de la primaire envers le gagnant joue aussi. Non, bah la preuve, Éric Piolle, Delphine Bateau, Sandrine Rousseau ont soutenu Yannick Jadot. Ça n'a pas permis à Yannick Jadot de progresser énormément dans les scores. Donc malheureusement, c'est pas déterminant à ce point-là. Hein. Rousseau, bof. Non, mais Rousseau, elle a fait la campagne de Jadot, hein, je vous rappelle. Rousseau, je vous rappelle qu'il y avait des appels du pied qui lui étaient faits pour qu'elle rejoigne la France insoumise. Elle a refusé, refusé, refusé. Elle a été écartée de la com de Jadot. Ça, c'est vrai. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Elle a été écartée de la com de Jadot parce que dans une interview, elle avait été critique vis-à-vis d'Yannick Jadot. C'est vraiment le moment où elle a été découverte par beaucoup d'adhérents et de militants écolos. C'est vrai que ça s'était mal passé à ce moment-là. Elle a été mise de côté sur la communication, Yannick Jadot. Mais c'est ouais, non, vous avez raison, vous avez raison. Moi, ce que j'avais gardé en tête, c'était que elle n'avait pas rejoint la France Insoumise, quoi. Alors que l'offre lui avait été faite de manière pressante. Un petit peu trop pressante, d'ailleurs, de ce qu'elle m'avait dit à l'époque. Si les écolos sont écolos, ils ne se présentent pas, c'est pas écolo, une élection. D'accord, très drôle. Elle a été découverte après les primaires? Non, mais la primaire a permis à Yannick Jadot d'obtenir une personnalité nationale. Il y a beaucoup de journalistes qui ne la connaissaient pas. Rousseau n'ira jamais à la France insoumise. Elle a un rejet viscéral de ses propres mots envers le fonctionnement de la France insoumise et de la violence et de la posture de certains de leurs cadres. Oui, effectivement, c'est une question de culture militante et de culture politique. Sans Yann Rousseau, la France insoumise, ça marchera jamais. Est-ce que c'est vraiment la fin du NFP? Non. Conformément à tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, non, ce n'est pas la fin du NFP. Le NFP renaîtra si les circonstances et les conditions le permettent, et si c'est jugé utile par les partis politiques en présence. Comme la NUPES. Exactement comme la NUPES. Voilà, c'est exactement comme la NUPES. Le PS a besoin du NFP, sinon ils sont finito. Et vice-versa. C'est ça qui est bien, c'est que ça marche dans les deux sens en fait. Est-ce qu'il y a une différence entre la NUPES et le NFP? Oui, il y a davantage de socialistes dans le NFP que dans la NUPES. Parce qu'ils n'ont pas été négociés au même moment. La NUPES a été négociée sur la base des résultats de l'élection présidentielle de 2022, où le PS a fait moins de 2% des voix. Et donc c'est pour ça qu'ils se sont retrouvés avec 30 députés seulement et les insoumis avec 17 avec 89 alors que le NFP a été négocié sur la base des résultats des élections européennes où le PS était devant les insoumis. Il y avait plus de d'électeurs socialistes que d'électeurs insoumis aux européennes, donc ils ont rééquilibré les circonscriptions et le PS en a obtenu davantage. Quatre-vingt-neuf, c'est le RN? Quoi? Je me suis encore trompé comme un connard? Oui, je me suis trompé comme un connard. 142 sièges, la NUPES. Putain, mais j'ai pas le détail. Fuck. Il faut que je retrouve. Non, mais sur Wikipédia, j'arrive pas à trouver le. Si je clique là-dessus, c'est juste une image de merde, c'est ça? Et j'ai pas. Ouais. Ouais, c'est bon. C'était 72. C'était 72 députés de la France Insoumise. Non, ça, c'est pour les élections de 2024. Oh, je suis en train de vous embrouiller, sa mère. Je suis en train de fatiguer tout le monde. Est-ce que tu penses qu'on va avoir des alliances localement pour les municipales? Ouais, je pense. En fait, ça dépend beaucoup de la ville dans laquelle tu te présentes, quoi. Ça dépend de, si t'es dans une ville qui est dirigée par la droite ou l'extrême droite, les militants de gauche au niveau local, ils vont avoir envie de se battre pour récupérer la mairie et quitte à faire des alliances pour y arriver. Si par contre t'es dans une mairie dirigée par la gauche, bah t'as moins intérêt à faire des alliances d'union de la gauche vu qu'elle est déjà au pouvoir, donc ça peut faciliter les divisions, tu vois. Tout ce que je dis n'est pas mécanique, ça dépend beaucoup des villes et tout, mais les alliances sont pas les mêmes. Et puis il y a des questions de stratégie de parti aussi. En l'occurrence, la France Insoumise a l'intention d'essayer d'aller conquérir des villes du PS en présentant des candidats contre eux dans beaucoup de villes, quoi. Donc d'après ta logique, si la France Insoumise a beaucoup plus de voix à la présidentielle que le PS, la répartition des circos devrait avantager LFI en cas d'accord électoral. Oui? Bah exactement, oui. C'est ce qui s'est passé en 2022. LFI était largement avantagé par rapport au PS dans l'accord de la NUPES, c'est normal. Ils avaient quand même un équilibre, un rapport de force très différent, dans lequel LFI était loin devant. Très loin devant même. Mais arrivé dans le NFP, c'était plus pareil. Donc ils ont renégocié. Ça dépend car le fonctionnement de LFI est très centralisé. Quand les chefs disent quelque chose, ça bouge comme un seul homme ou une seule femme. Il n'y a qu'au PS qu'on accepte les dissensions et les frondeurs. Ah non, il n'y a pas qu'au PS. Au PS, chez les écolos, au PCF, au NPA, dans tous les NPA d'ailleurs, sans exception. Non, non, on peut même dire que le système centralisé de la France insoumise, c'est unique à gauche. Partout sauf LFI, ouais, c'est ça. Au PCF, les courants sont officiellement interdits. Ouais, mais ça n'a pas empêché Fabien Roussel de réussir à être élu premier secrétaire du parti, hein. Après 2017, il y a quand même eu du mouvement au Parti communiste où la direction sortante n'a pas été reconduite par le Congrès, ce qui est très 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 rare au Parti communiste français, qui a un mode de fonctionnement démocratique mais qui fonctionne sur la synthèse. Donc c'est pour ça que, enfin, pour moi, le Congrès de 2017 du PCF montre que même au PCF, il y a des divergences de points de vue qui peuvent s'exprimer dans des votes et qui peuvent emporter des élections, quoi. Et chez Place Publique, est-ce qu'il y a différents courants politiques? Place Publique, non. À ma connaissance, il n'y a pas de courant politique à Place Publique, t'as raison. Parce que Place Publique, tout comme la France Insoumise, est un parti qui a été créé autour d'une personnalité. D'une personnalité charismatique et d'une candidature potentielle à l'élection présidentielle. Donc, c'est un micro-parti. Ouais, c'est un micro-parti, mais Méfiez-vous des micro-partis, hein. Il y a des micro-partis qui remportent des élections présidentielles, ça arrive, hein. Charismatique. Ah oui, alors pour ceux qui n'ont pas la ref, charismatique, c'est pas un jugement de valeur de ma part. Une personnalité charismatique en sciences politiques, c'est très précis. T'es une personne qui emporte sur son nom, sur son visage et sur son histoire parfois, une adhésion de ses adhérents, de ses sympathisants et de ses électeurs. Typiquement Jean-Luc Mélenchon. Typiquement Emmanuel Macron. Typiquement Marine Le Pen. C'est ça ce qu'on appelle une personnalité charismatique. Dominique de Villepin. François Hollande, non. Non, François Hollande, non, parce que François Hollande, c'était le premier secrétaire d'un parti politique qui a remporté une élection primaire. Je veux dire, c'est pas lui qui a créé le Parti socialiste, c'est pas lui qui. Souvent, une personnalité charismatique, c'est en politique, c'est une personnalité qui va créer son propre parti, comme une écurie personnelle, et qui va en faire une écurie pour remporter une élection. On pense notamment à l'élection présidentielle, mais pas seulement. Et donc, typiquement. Pardon, excusez-moi. Emmanuel Macron et La République en marche, c'est exactement ça. Raphaël Glucksmann et Place Publique, Édouard Philippe et Horizon, Jean-Luc Mélenchon et La France Insoumise. Alors Marine Le Pen et le Rassemblement National, c'est un peu particulier parce que Marine Le Pen a hérité du parti de son père. Donc il y a eu une transmission du caractère charismatique du père à la fille. Et la fille a été légitimée dans sa prise du pouvoir par un vote des militants. C'est très paradoxal, le Rassemblement national, parce que c'est un parti politique dans lequel il y a une démocratie interne qui existe, mais qui est essentiellement de façade, parce qu'à la fin, c'est toujours Marine Le Pen qui gagne. Il y a une espèce de mécanisme comme ça qui est assez intéressant, et qui fait que le Rassemblement national et le Front national avant lui sont des partis assez curieux. Dans leur mode de fonctionnement, on ne s'attend pas à trouver à l'extrême droite un truc qui fonctionne comme ça. François Bayrou avec le MoDem. Ouais, François Bayrou avec le MoDem en 2007. Mais depuis, c'est devenu plus compliqué parce que François Bayrou a été obligé de faire alliance. Et François Bayrou, typiquement, il a fait un truc que d'habitude ces personnalités-là ne font pas, c'est qu'il a accepté de s'effacer derrière un autre candidat que lui. Le modèle, c'est les cendres de l'UDF. D'une partie de l'UDF, oui. Mais c'est quand même très. Très incarné par François Bayrou et par sa candidature en 2007. Plus récemment, Philippe avec Horizon. Ouais, oui, bien sûr. Non, mais c'est ça, c'est une personnalité connue des Français, une personnalité nationale connue des Français, qui crée son propre parti. Et qui en fait une écurie personnelle. Donc ouais, non, c'est parfois paradoxal. C'est vraiment parfois paradoxal. Il n'y a pas des exemples avec des femmes? Bah Marine Le Pen, on en parlait tout à l'heure, c'est un peu particulier, mais oui. Olivier Besancenot, quand même. Bah non, justement, Olivier Besancenot, non. Olivier Besancenot, c'était le candidat de la Ligue communiste révolutionnaire, puis du nouveau parti anticapitaliste. Mais il n'a pas créé le parti parce qu'il l'a. C'était avant lui Alain Krivine et les jeunesses communistes révolutionnaires qui ont créé ce parti-là. Olivier Besancenot a rejoint ce parti, puis a été présenté à la candidature. Puis c'est Philippe Poutou qui a repris le flambeau pour deux campagnes présidentielles successives. Puis ce sera sans doute quelqu'un d'autre. Donc on ne peut pas vraiment. On ne peut pas vraiment dire qu'il a une écurie personnelle, Olivier Besancenot. Et Arlette Laguiller pour Lutte ouvrière. Alors Lutte ouvrière, effectivement, ils ont la particularité de présenter systématiquement la même candidate à chaque élection présidentielle. Pour autant, je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est une écurie personnelle. C'est quand même particulièrement collectif aussi comme parti. Hanouna, d'une certaine manière. Hanouna pourrait tenter de faire comme Éric Zemmour, c'est-à-dire une candidature à l'élection présidentielle basée sur une notoriété à la télévision. On peut l'imaginer. On peut l'imaginer. C'est peut-être ce qui va se passer d'ailleurs. Et peut-être que ça va beaucoup perturber l'élection présidentielle. J'en sais rien. C'est pour ça que je vous rappelle qu'on est encore très 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 tôt dans le développement de toutes ces histoires. Je comprends pas pourquoi on parle de présidentielle alors que c'est dans 2 ans. Tu viens de comprendre la Ve République, félicitations. C'est comme ça que ça marche. Ouais. Ouais. Non mais. Abonnez-vous à cette chaîne, vous allez voir, on va y arriver. Merci d'ailleurs à Lidon, Feed, Selyash, Akesh, Slobby, Thomas, Saphir44, L'Amiral Bastos, The Douft. Merci à vous pour vos abonnements. Dilaydilaydoum. On va faire un raid chez Hardisk. Je vais m'arrêter là, les copains. Merci à vous, c'était chouette, ce petit stream détente. Demain, je me casse. Vendredi, je vais. Enfin, je fais Backseat. Backseat qui sera en direct d'Avignon. N'hésitez pas, les personnes qui habitent à Avignon ou à côté, venez nous voir vendredi. Backseat en public spécial. On a fait la réunion ce matin et tout, ça va être trop bien. Hâte de vous voir. Merci d'avoir été avec moi, passez un bon week-end. On va faire un raid chez Hardis qui est avec Basti en train de discuter de tout et de rien. C'est donc une excellente raison d'aller les voir. Bisous à vous, merci d'avoir été là et je vous dis à tout bientôt. Salut les copains. Attends. Ça arrive bientôt. Zou.
Bravo.
Quoi? Ah, c'est moi?
Ouais.
Oh putain, 2000 personnes, alors attendez.
Je te laisse accueillir.
Tu me laisses accueillir?